Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello à tous, ravi de vous retrouver pour une série de 7 épisodes dédiés à l'expérience universitaire américaine, le Tennis College comme l'appellent les vrais. Ce format sera un peu plus court que les épisodes de podcast classiques et on est très heureux chez Tennis Légende de vous le proposer en collaboration avec la French Touch Academy, qui est un sport-études tennis au Cap d'Agde, qui a pour mission de faire progresser ses pensionnaires pour éventuellement les diriger vers l'université américaine après le bac avec une bourse à la clé. Je vais recevoir au micro des joueurs et des joueuses diplômées, un agent responsable du placement dans les universités, un coach en direct des US. Et en attendant, je suis ravi de commencer, d'ouvrir le bal avec Charles Offray, ex-top 200 et directeur de la French Touch Academy, pour commencer cette série donc, que l'on diffusera tous les 15 jours en moyenne. Comment ça va, Charles ?
Écoute, très bien, Max. Merci déjà. Merci de me recevoir. Je suis heureux de pouvoir partager ce moment avec toi et puis impatient de pouvoir discuter de ce sujet qui, je pense, peut intéresser pas mal de monde, notamment les parents et notamment ceux qui veulent avoir un avenir pour leurs enfants, on va dire.
Ouais, absolument. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, donc moi aussi déjà, je suis méga heureux de faire ce contenu en collaboration avec l'Académie et puis votre savoir-faire pour envoyer les jeunes aux US. Et en fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est un auditeur du podcast qui est parti en université à Hawaï et qui m'a dit très souvent, j'ai des questions des parents et des jeunes pour être un peu inspiré sur ce qu'il faut faire ou pas faire, ce qui va être cool. J'espère qu'on va donner la puce à l'oreille à certains qui veulent partir en, leur filant les bons tips. Donc voilà, je pense que tu es un pionnier dans le domaine et c'est hyper cool de commencer ensemble. Pour démarrer, Charles, est-ce que tu peux te présenter avec tes propres mots, nous dire qui tu es ?
Écoute, très simplement, moi je suis un ancien joueur de tennis, hein. J'ai toujours été passionné de tennis depuis le plus jeune âge, j'ai fait toutes les formations en jeune, sport-études nationaux, et INSEP, etc. et Roland-Garros, donc je faisais partie des meilleurs sans être, on va dire, le tout meilleur. Donc à 18 ans, c'est poser la question de savoir quel était l'avenir pour moi, est-ce que j'allais sur le circuit pro, la fameuse question que tu te poses quand t'arrives au bac, hein, que les parents se posent, mais aussi les jeunes. Et naturellement, si tu veux, m'est venue la possibilité d'aller aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que mon père, en fait, a enseigné là-bas. C'était un enseignant dans les années 70 aux États-Unis. Il connaissait un petit peu le système. Il avait vécu un peu ce système de l'extérieur. Il voyait les joueurs de tennis qui jouaient super bien à Berkeley, à Stanford, en Californie, pour l'anecdote. Et quand il était revenu, il s'était dit, c'est fabuleux. Les gars, ils font des études, ils jouent au tennis à un niveau incroyable.
Il faisait quoi, ton père, là-bas ?
Il était prof de philo, rien à voir. Il était prof de français, de philo. Okay. Donc, il n'était pas du tout sportif, mais bon, il s'intéressait quand même au sport. Et quand je me suis mis au tennis, il avait assez jeune déjà dans la tête de se dire pourquoi j'enverrais pas mon fils en université aux États-Unis. Donc, on en a parlé assez jeune, mais à l'époque, c'était pas du tout, si tu veux, quelque chose qui était répandu. Personne n'allait aux États-Unis, on connaissait pas trop. Et il se trouve que je suis allé faire le championnat du monde junior à l'Orange Bowl en Floride. Justement, un peu pour me faire repérer, et puis parce que j'avais été recruté, enfin j'avais été sélectionné pour y aller. Et puis, lors de mon tournoi là-bas, j'ai en effet rencontré des coachs qui sont venus me voir jouer. Et puis, coup du hasard ou destin, j'en sais rien, je suis tombé sur un coach très sympa qui m'a dit « Écoute, je trouve que tu joues pas mal, j'aimerais bien que tu viennes visiter l'université dans laquelle que je dirige en Californie. » Donc, il s'agissait de l'université de Pepperdine. Et Pepperdine, c'est une petite fac aux États-Unis qui est assez connue pour deux raisons, parce qu'il y a une très bonne équipe de tennis, et puis parce que c'est sans doute la plus belle petite université, petite certes, mais plus belle université des États-Unis qui en fait surplombe le Pacifique, à Malibu, pour Malibu au-dessus de Los Angeles, qui surplombe le Pacifique. Donc je me suis retrouvé à aller.
Combien d'étudiants tu dis que c'est une petite?
Bon, c'est 6, 7 000, tu vois, comparé à des facs qui font 50 000 comme UCLA ou, mais bon, c'est une fac privée,
C'est la
plus,
famille.
tu vois, plus famille. Et donc, je me suis retrouvé à prendre un avion là-bas, à retrouver le coach et je suis arrivé un 24 décembre après l'Orange Bowl là-bas.
Et on est en quelle
Il
année
faisait
là?
en 91, 1991.
Mais attends, l'Orange
J'avais
Bowl, tu le faisais pour les moins de 16?
non, 18 ans. Moi, j'étais 73. Donc, si tu veux, ça faisait,
D'accord.
j'avais 18 ans. J'étais en dernière année junior. Et donc, je me retrouve, voilà, je me retrouve à aller là-bas après avoir perdu, je sais plus quel tour. Et j'arrive là-bas. Il faisait donc 20, 25 degrés, 23 décembre. Les gars s'entraînaient torse nu. Il y avait les salles de cours au-dessus. Je voyais les étudiants qui étaient là, qui regardaient la mer en même temps. Et là, je me suis dit, mais attends, mais c'est quoi
C'est
cet
pour moi, ça.
endroit? C'est l'endroit rêvé pour faire des études et pour faire du tennis. Donc, ça m'a pris à peu près, honnêtement, ça m'a pris, je pense, 5 minutes de prendre la décision et de me dire, bon, ok, je vais passer les 4 prochaines années de ma vie à faire des études ici, à jouer au tennis. Il y avait un super niveau. En plus, les mecs, je les voyais jouer et ça jouait super bien.
Ouais.
Il faisait partie des, si tu veux, c'était une équipe qui faisait partie des 10 meilleurs des États-Unis. Donc voilà, ça s'est fait naturellement, rapidement, avec un coach qui était connu en plus, qui était un très bon coach. Et donc voilà, l'aventure est partie. J'étais on va dire un des premiers à partir là-bas. Il y en avait quelques autres, mais j'étais un des premiers. Et puis j'ai vécu 4 ans fabuleux.
Mais attends, t'étais combien français toi à l'époque, à cette époque-là, en junior?
J'étais moins 2 ou moins 4, tu vois. J'étais bon, mais j'étais pas incroyable du tout à 18 ans.
Donc
Donc j'ai dû arriver
t'étais pas top 10, quoi.
en France. Si j'étais dans le top 8, quoi, top 6, top 8, on va dire. J'ai
Ok.
dû être peut-être à moins 15. J'avais dû monter à moins 15 dans l'année, tu vois, un truc dans ce genre-là. Donc je suis arrivé là-bas avec un bon niveau, mais pas non plus extraordinaire. Et puis je me suis entraîné, j'ai commencé à jouer et rapidement, en fait, j'ai beaucoup progressé pour plein de raisons, parce que voilà, il y avait plus cette espèce de pression de la France, du classement, de toutes ces conneries. Donc je me suis bien habitué, j'ai fait mes 4 ans d'études, j'ai été All American, ce qu'on appelle, c'est-à-dire j'ai fait partie des 16 meilleurs américains dès la première année dans le
Ouais.
classement. Et donc j'ai fait mes 4 années aux États-Unis. C'était une expérience absolument inoubliable, on peut
Attends,
le dire, parce
avant,
que
avant de nous basculer sur une ou deux anecdotes là-bas, parce que tu dois en avoir un paquet, mais pourquoi avoir choisi les US alors que tu étais top 10 français, là où c'était pas vraiment le cursus, tu nous disais que tu étais à l'INSEP, qui était à peu
ouais.
près le schéma classique. Pourquoi toi, tu es
Ouais.
sorti du rang comme ça? Tu croyais pas assez en toi pour aller direct sur le circuit?
Alors à 18 ans déjà, quand tu es à l'INSEP ou à Roland-Garros, si tu veux, tu arrives en senior et soit tu as le niveau pour aller sur le circuit, on va dire, tu continues un peu dans cette filière, soit tu n'es plus fédération, tu te débrouilles, à ce moment-là, tu peux en effet aller sur le circuit. Mais moi, oui, je considérais clairement que j'avais fait, si tu veux, 2, 3 circuits, ce qu'on appelait ATP, dans l'année avant de partir. Et je sentais que j'étais à la fois peut-être juste en niveau et en maturité, tu vois. Je sentais que c'était pas encore clair. Et puis, je t'avoue que l'aventure américaine me tentait
L'océan
bien
t'a
parce
appelé.
que, ouais, entre autres, ouais, l'aventure me paraissait assez excitante. J'avais vraiment envie de partir là-bas et je me disais, mais en plus, vu comment on va s'entraîner, vu le volume que je vais avoir, vu les joueurs que j'ai vus aux États-Unis, il n'y a pas de raison que je puisse pas progresser. Et en même temps, ça me plaisait assez de continuer à faire autre chose, tu vois, de faire des études universitaires là-bas. L'idée me paraissait assez intéressante, si tu
Pour les gens qui n'y connaissent strictement rien aux US.
veux.
J'ai fait 2 ans d'études là-bas, donc tous les deux on est rodés, il y en a pas mal qui connaissent. Plante-nous le décor de comment ça marche, combien de mecs dans l'équipe, est-ce qu'il y a une équipe fille aussi, comment t'es accueilli, quel est le niveau, fais-nous l'état des lieux, qu'on se projette mieux.
Alors déjà, le système US, il est vaste, hein. Le système américain universitaire, c'est plus de 1 000 facs qui font du sport. En tennis, je crois que c'est pareil. Des programmes compétitifs, il y en a peut-être 300, 300-400. Là-dessus, il y en a des très forts, il y en a des un peu moins forts, il y en a des moyens, on va dire. Il y a évidemment des équipes hommes et des équipes femmes dans chaque équipe. Il y a environ une dizaine de joueurs par équipe, généralement, et il y a 6 joueurs qui jouent en simple. Voilà, c'est ça la base. Pour être recruté, généralement, par un coach, il faut faire partie de ces 6 joueurs, 6, 7 joueurs qui vont. Il y a peut-être un ou deux remplaçants, 6, 7 joueurs qui vont jouer dans l'équipe pour un jouer en match universitaire, puisqu'en fait le système là-bas, c'est de jouer contre d'autres équipes universitaires tout au long de l'année. Donc c'est un système qui est assez marrant parce que tu joues dans la fac contre d'autres facs qui viennent jouer contre toi, ou tu vas à l'extérieur, dans d'autres régions, d'autres États des États-Unis, pour rencontrer d'autres facs. Donc, tu pars un peu à l'aventure à travers les États-Unis pour jouer des matchs universitaires. C'est, il y a quelque chose aussi d'assez excitant là-dedans, quand on aime jouer les matchs universitaires. Mais tout ça pour dire que oui, il y a en gros 7 joueurs, 8 joueurs qui participent activement en simple. Et ces joueurs-là, c'est ceux qui peuvent prétendre à la fameuse bourse, si tu veux, la bourse qui va couvrir une partie, voire la totalité des frais, parce que c'est quand même un des nerfs de la guerre. C'est que faut savoir qu'une université aux États-Unis, ça coûte quand même en moyenne entre, allez, on va dire entre 40 000 et 50 000 dollars l'année, tout compris, hein, quand tu parles d'études, de logement, de nourriture, de tennis, etc. Donc, quand tu obtiens une bourse, c'est le coach qui t'attribue la bourse pour pouvoir représenter l'université et jouer pour la fac. Et là, ça peut aller de, en gros, de 50% ou même un peu moins des coûts couverts jusqu'à 100%. Tu peux avoir une bourse complète, une bourse aux trois quarts, une bourse de 50%. C'est en fonction de ta position dans l'équipe, si tu veux, et de ce que tu peux démontrer. Tu as, en gros, entre quatre et cinq bourses par équipe mec. Donc, tu as quatre ou cinq joueurs qui peuvent avoir une bourse complète, ou alors le coach peut diviser les bourses en demi-bourse ou en trois quarts de bourse, ce qui fait que tu as un panel de joueurs plus important qui peuvent bénéficier d'une bourse. Pour les filles, c'est un sujet qui est aussi important, c'est plus facile comparativement, parce qu'il y a 8 bourses pour chaque équipe fille. Donc, pour avoir une bourse complète pour une fille, pour un même classement, c'est plus facile comparativement pour une fille, si tu veux. Donc voilà
parce
un petit peu comment...
Parce qu'il y a moins d'athlètes chez les filles dans d'autres sports. Je crois que c'est une enveloppe globale, ouais, sur tous les sports, c'est ça?
Exactement. C'est en fait, tu as le football américain notamment qui n'existe pas en filles. Et lorsque tu as des équipes que tu vois en université de football américain, c'est 80 bourses ou 100 bourses pour une équipe mec, puisque t'as énormément de joueurs. Donc, ils sont obligés de contrebalancer ça par des bourses supplémentaires dans les équipes filles, et notamment les équipes de tennis, où il y a, au lieu donc de 4 bourses et demie pour les mecs, c'est quasiment le double, c'est 8 bourses. Voilà. Donc, c'est vrai que mieux vaut être une fille, on va dire, pour partir aux États-Unis et avoir des conditions financières intéressantes. C'est d'autant plus, d'autant moins compliqué, on va dire, pour une fille que pour un garçon. Voilà.
Et si tu avais été appelé par un coach dans le Wisconsin, où il fait moins 20 l'hiver, ou Seattle... S'il pleut les trois quarts de l'année, la ville aussi cool soit-elle, tu serais allé aux US aussi ou pas?
Ouais, je pense. Franchement, okay. Là, ça a été le déclic, on va dire, supplémentaire qui a fait que ça a accéléré tout, et je me suis même pas posé l'ombre d'une question. Mais honnêtement, quand tu connais le système universitaire américain, surtout, c'est-à-dire que quand tu vas aux États-Unis, que tu sois dans le Mississippi, au Nebraska ou en Californie, je crois que tu as vécu l'aventure aussi, l'ambiance d'une fac, l'énergie, on va dire la mise en avant du sport universitaire de manière incroyable, à tous les niveaux. Bref, tous ces facteurs-là font qu'à un moment, pour un jeune de 18 ans, quand tu arrives là-bas, franchement, pour pas avoir envie, faut se forcer, quoi, parce que c'est fabuleux. C'est une vie de 4 ans où, encore une fois, tu vas non seulement y associer, si tu veux, l'intérêt de pouvoir concilier des études supérieures quand même, l'apprentissage de l'anglais, j'en passe, t'éclater en faisant des matchs par équipe et en jouant à bloc, en poussant ta passion, et puis vivre une vie universitaire quand même, de jeune universitaire, qui est intéressante, avec d'autres joueurs étrangers, puisqu'il faut savoir qu'une équipe, généralement, aujourd'hui, c'est pour ça d'ailleurs que le niveau universitaire monte de plus en plus, c'est qu'il y ait, tous les pays du monde veulent aller aux États-Unis en université. Donc, c'est ça qui rend le truc, si tu veux, aussi attrayant, c'est la multiplicité des nations qui veulent aller en université et qui jouent en université américaine.
Ouais. Alors attends, je remets ma... Voilà, j'avais perdu mon histoire de caméra. Quand tu arrives, t'es combien? T'es négat, c'est ça?
Ouais, je dois être à moins 4 ou un truc comme ça.
T'es combien dans
niveau.
Le line-up? Ils appellent ça un line-up.
Je suis numéro 5 au début, quand on commence.
Le niveau est méga relevé.
Ouais, 5 ou 6, on était, je te dis, numéro 6 des États-Unis ou un truc comme ça. Donc, c'était vraiment le top. Faut savoir que moi, dans mon année là-bas, j'étais le premier match que je joue, c'est simple, hein, on va jouer un match à Los Angeles, un tournoi, premier tour des qualifs, et je joue contre un autre première année. Qui arrivait, qui débarquait, je fais mon match, je joue le mec, il joue à deux mains des deux côtés. Le gars, il venait du Zimbabwe, et je prends 2-7, en jouant un bon match, tu vois. Je me dis, putain, quand même, j'ai joué un bon match, j'ai pris 3 et 4, je crois. Et là, je me dis, mais attends, le niveau, il est monstrueux, je joue un mec en qualif, d'un tournoi régional en Californie universitaire et je me fais cirer au premier tour. Et il se trouve que ce mec-là, il s'appelait Wayne Black. Wayne Black, il a été top 30 mondial. Il a été, je crois, numéro 1 en double ou son frère, ou en tout cas, bon, il a été très très fort. C'était un très grand joueur qui a joué pour USC, donc qui était une des facs, des grosses facs de Los Angeles. Je suis tombé sur lui le première semaine, premier match. Je me suis dit, ah ouais, d'accord, c'est ça, ça calme. Et après, bon, j'ai réalisé que le mec très vite, il était fort parce qu'il perçait les tableaux. Mais voilà, tout ça pour dire que le niveau était oui sur les facs du top de toute façon du top 20-25. Hein, on le voit aujourd'hui avec les joueurs qui percent. Il y en a beaucoup qui percent dans le top 100. C'est pas parce qu'on va aux États-Unis en université qu'on met de côté une carrière tennistique. Loin de là, il y en a beaucoup qui percent. C'est une bonne filière. C'est une bonne filière parce qu'on peut encore une fois associer les deux, bien évidemment, mais aussi une bonne filière pour ceux qui n'ont pas nécessairement la maturité ou le niveau tout de suite, mais qui veulent s'aguerrir, qui veulent se renforcer en termes d'expérience, mentalement. C'est une super école et il y en a beaucoup qui après percent sur le circuit au plus haut niveau. Donc moi, j'ai commencé numéro 5. Et comme j'ai vite gagné rapidement beaucoup de matchs, en fait, il m'a fait monter dans le line-up et j'ai fini par jouer numéro 2 et 1 à mi-année jusqu'à la fin de l'année. Et puis après, j'ai pu lâcher cette position jusque pendant mes 4 ans. J'ai joué toujours entre numéro 1 et numéro 2. Donc c'était encore une fois une expérience fabuleuse au niveau tennis parce que j'ai joué tous les meilleurs des États-Unis à cette époque et il y en a quand même pas mal qui ont été derrière sur le circuit, qui sont passés pro. Et surtout, ça m'a permis de faire progresser mon jeu également de la même façon.
Une année, t'as fini 4 du pays, je crois.
Ouais, j'ai fini 4e. J'avais battu les meilleurs, hein, les meilleurs devant moi même. Donc tu vois, je faisais vraiment partie des tout meilleurs. T'avais donc un classement national en simple, donc dont tu parles, et puis un classement universitaire par équipe où là on était toujours dans le top 10. Et puis après, t'avais un tournoi NCAA qui est de fin d'année où là les meilleurs, en gros les 64 meilleurs en simple des États-Unis et les 16 meilleures équipes se rencontrent si tu veux et c'est un tournoi d'une semaine et le vainqueur de ce tournoi-là avait une wildcard pour l'US Open. Je crois que c'est toujours le cas d'ailleurs, il me semble. Donc j'ai participé à ce tournoi les 4 années, je l'ai jamais gagné mais j'ai toujours participé à ce tournoi qui si tu veux qui réunissait tous les meilleurs des États-Unis en gros quoi.
Et tu disais que quand tu es arrivé l'université était numéro 6 du pays, il me semble qu'il y a un budget différent par université en fonction de plein de choses. De combien était celui de Pepperdine, le budget annuel dédié au tennis?
Alors t'as un budget différent, oui et non. C'est-à-dire que t'as des règles quand même NCAA où toutes les facs, normalement, en division 1, ont une limite de budget, notamment en termes de bourse. Quand je te dis 4,5, c'est le maximum. Tu peux pas, normalement, offrir plus de bourses que 4,5 bourses en division 1. Okay. Parce que justement, ils mettent des règles. Si tu veux, comme le salary caps au monde pro, là, c'est une sorte de plafond que tu peux pas dépasser. Après, il n'empêche que ils peuvent investir plus ou moins dans les infrastructures, dans plein de choses qui vont autour du programme. Te dire exactement quel est le budget, c'est dur à dire. Ce que je peux te dire aujourd'hui pour avoir un chiffre qui soit, pour les auditeurs, qui soit peut-être intéressant, c'est une fac, le budget d'une fac aujourd'hui. Moi, il se trouve que j'ai envoyé mon fils en université à San Diego State et j'étais allé voir et par hasard, j'étais tombé sur le budget annuel de fonctionnement de la fac. Qu'est-ce que représentait le budget global de tout ce qui se passe dans la fac, on était quasiment sur le milliard de dollars, si tu veux, pour une fac qui était une grosse fac de division 1, qui est pas la plus grosse, loin de là, mais c'est pour donner un petit peu une idée de l'immensité des budgets qui sont alloués pour les étudiants, les profs, les coachs, les infrastructures, et j'en passe. C'est une industrie, le sport universitaire américain, quand tu as le football américain, le basket avec des salles qui font 12 000 places, le football américain, des stades de 50, 60 000 places, c'est quelque chose d'ahurissant, qui n'est limite pas croyable pour un Français, puisque quand on compare le système universitaire français et le système universitaire américain, je dirais malheureusement, quelque part, hein, mais il y a pas photo, c'est-à-dire que là-bas, les investissements qui sont faits, le côté cercle vertueux, Alors certes, l'université vaut cher, mais il y a beaucoup de bourses, il y a beaucoup de boursiers. Il y a beaucoup de fonds qui sont, il y a beaucoup de gens qui donnent aussi, des anciens de la fac qui donnent à la fac. Il y a beaucoup d'investissements qui sont faits et tout ça, ça crée vraiment un cercle vertueux qui permet à l'université de bien fonctionner, d'avoir des bonnes infrastructures. Donc c'est vrai que c'est un monde, le monde universitaire américain, notamment le monde sportif universitaire américain, qui est inouï, quoi.
Ouais. Alors, je te posais la question parce que j'avais vu Cédric Kaufmann, qui est coach d'université, je ne sais plus laquelle
Ouais,
d'ailleurs,
à Kentucky.
Kentucky, voilà, qui est donc Cédric, il est ancien joueur pro aussi, et l'université de Kentucky est, je ne sais plus, il m'a dit, je crois, 30e budget du pays. Eux, ils avaient pour l'équipe de tennis 850 000 dollars annuels, donc
D'accord.
en
En
étant
dehors des
classique.
bourses, alors. Ouais, peut-être en dehors des bourses. Alors, je sais pas si comment il fait son calcul,
Ouais.
mais en tout cas, oui, ce qui est sûr, c'est que plus une fac est importante, plus elle peut allouer de moyens, en tout cas en équipement, en plein de choses qui font qu'à un moment tu t'as l'impression de, en effet, d'arriver dans une équipe pro, quoi, une équipe de, t'as l'impression d'arriver. Moi, je me souviens d'un jeune qu'on avait envoyé à Florida, par exemple. Florida, ils avaient les vestiaires avec les noms des mecs comme dans les vestiaires de foot
Ouais.
de Champions League, quoi.
Non, mais certaines
C'était de la
universités
folie.
voyagent en jet privé. C'était ma seconde question, c'est est-ce que tu peux nous faire rêver un peu sur les infrastructures à Pepperdine, à quoi elles ressemblaient, fais-nous voyager un peu, et puis quand vous bougiez, est-ce que vous aviez des, je sais pas, des traitements de faveur un peu hors du commun, est-ce que tu peux nous faire imaginer le truc?
Écoute, je dirais, alors, ce qui est sympa, c'est que quand tu es sportif universitaire, que ce soit à Pepperdine ou ailleurs, tu as un statut un peu spécial. Ça ne veut pas dire qu'on te donne les cours comme ça. Il faut quand même être un étudiant, entre guillemets, normal et passer ses UV. Maintenant, tu as un statut un peu spécial, tu es considéré un peu différemment et ça facilite les choses au niveau des profs. Et puis, dans la fac, t'es un peu, tu peux être un peu, alors c'est moins le cas pour le tennis que pour le football américain ou le basket, mais tu peux être un peu considéré comme une star, ce qu'on peut appeler une star universitaire. Voilà. Ce qu'on voit dans les films quand t'as le footballeur américain qui, avec les pom-pom girls autour, qui tournent autour un peu, quoi. Il y a un peu de cette idée-là. Après, en termes d'infrastructure, comme je l'ai dit avant, c'est dingue. C'est dingue. Pepperdine faisait pas partie des, je dirais, parce qu'il y avait pas de football américain. Donc les budgets étaient moindres quand même, mais c'était une très belle fac avec des infrastructures superbes au niveau tennis, au niveau basket, etc. Mais c'était pas aussi impressionnant que des grosses facs de 50 000 étudiants où là tu peux vraiment avoir, tu prends UCLA, bon bah t'as un stade de foot qui fait 95 000 places, tu t'as plein. Moi je suis allé dans des facs où on allait voir le match de basket, il y avait 10 000 personnes, tu vois, des stades de 10 000 indoor comme Bercy quasiment, t'en avais dans chaque état t'en avais plusieurs, tu vois. Donc c'est complètement fou, c'est un autre monde. Après en termes de, ouais, il y a des anecdotes sur les voyages. Maintenant, j'ai en tennis, j'ai rarement vu quand même des équipes qui affrétaient des jets privés. Peut-être ça existe en foot ou en basket, moins en tennis quand même. Mais ouais, c'est des expériences. Je te dis, moi, ce que je trouve intéressant et excitant, surtout dans l'expérience de voyage, c'est que tu vas voir d'autres États. Bon, quand tu aimes un peu les États-Unis, que tu es un peu aventurier dans l'âme, tu vas. Moi, j'étais en Californie, mais je suis allé un peu partout aux États-Unis, de New
Ouais.
York en Floride, en passant par le sud, le nord. Donc, tu visites vraiment toutes les États-Unis. Donc, c'est quelque chose d'assez amusant. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment amusé et qui m'a fait aussi aimer les États-Unis.
Et le coach ressemblait à quoi dans ton univers?
Bah, le coach, c'était un coach un peu mythique, si tu veux, qui est connu aux États-Unis, qui était connu à l'époque parce que c'était un peu le gourou de la psychologie du tennis, il avait été champion lui-même de tennis dans les années 50 et 50-60, on va dire, et c'était devenu un gourou du mental. Il avait écrit deux bouquins sur le mental et c'était un mec vachement intéressant. Alan Fox, il s'appelait. Il est toujours en vie d'ailleurs, il doit avoir 80 et quelques années maintenant. Et c'était quelqu'un qui m'a apporté, moi, beaucoup personnellement, et qui était très connu aux États-Unis. Il avait entraîné Brad Gilbert, avait été dans la fac à Pepperdine aussi. Il l'avait entraîné. Tu vois, il y avait eu pas mal de bons joueurs qui étaient passés par l'université de Pepperdine. Donc c'était quelqu'un de réputé aux États-Unis. J'ai eu la chance, si tu veux, de tomber. Après, les coachs aux États-Unis, il y a de tout. Il y a des bons mecs, il y a des moins bons mecs, comme partout, hein. Mais il y a des gars qui connaissent très bien le tennis. Il y en a d'autres qui sont des bons recruteurs. Il y a vraiment toutes sortes de personnalités. Il y a beaucoup de facs. Donc, évidemment, plus tu vas dans des facs de haut niveau, plus le niveau du coaching est élevé, ce qui est logique. Quand tu vas dans une fac que tu pars, c'est pas la même chose, si tu veux, quand tu pars et que tu es 2-6 ou moins 4. Quand tu es 2-6, tu vas avoir une bonne expérience, tu vas vivre une expérience universitaire incroyable, mais tu n'auras pas nécessairement le top niveau du coaching. Tu vas t'entraîner tous les jours, ça va être la même chose en termes d'expérience, mais par contre, tu vas pas non plus pour passer professionnel, tu vas plus pour l'expérience, si tu veux.
Ouais.
Donc voilà, il y en a un peu pour tout le monde.
Moi, j'étais 3-6, justement, donc j'étais dans ce deuxième cas de figure, et je suis tombé sur un ancien GI
Ah, le classique.
totalement fou, et on avait entraînement physique le premier semestre entre août et décembre à 5h20 le matin, parce qu'après,
C'est bon ça.
La salle de gym était prise à partir de 7h toute la journée. Et comme le tennis faisait pas partie de sport majeur, bah, on prenait le créneau qui était libre. Et j'étais évidemment fracasse en cours de 8h à 11h. Je dormais les trois quarts du temps. Est-ce que tu as eu des entraînements un peu à la dure, des trucs un peu à l'américaine ou... Tu vois ce que je
Le
veux dire?
coach était pas trop tourné là-dessus. Il était assez cool là-dessus. Il faisait confiance au mec. On s'entraînait beaucoup, hein. On s'entraînait quand même 3 heures tous les après-midi. Donc, on faisait un peu de physique, etc. Mais c'était pas. Il y avait des universités qui étaient connues pour ça. Clemson, je me souviens. Il y avait des coachs. On se disait, ah ouais, les mecs, c'est des fous furieux. Tous les matins, c'était 5 heures du mat. Donc, pareil, il y a un peu de tout. Mais c'est assez marrant l'anecdote que tu racontes parce que c'est vrai que. Ouais, c'est un des aspects sur le coaching américain qu'on peut des fois entrevoir. Y en a un certain nombre qui sont comme ça. Ouais, c'est vraiment un peu à l'armée, à l'américaine. Mais c'est loin d'être le cas de toutes les facs. Il y a vraiment de tout, je pense. C'est difficile de faire une règle, mais ouais, il arrive. Moi, je me souviens de copains qui étaient dans certaines facs où les mecs ils broutaient pas mal. Ouais.
Et t'as cité le terme NCAA tout à l'heure. Tu peux nous expliquer ce que c'est?
Ouais, NCAA, c'est l'organisme
Donc c'est NCAA, voilà.
American. Alors, je t'avoue que National, je sais même plus ce que veulent dire les lettres, mais peu importe. En fait, c'est l'organisme qui régit tout le système universitaire sportif américain. Les règles, comment ça se passe, combien d'équipes, combien de sports, combien de scholarships, etc. C'est eux qui régissent tout ça. Donc, ça doit être quelque chose qui doit rester amateur. C'est pour ça, NCAA, il y a amateur là-dedans. La règle de base du sport universitaire américain, c'est que on ne doit pas être professionnel quand on joue aux États-Unis, qu'on soit basketteur. On ne doit pas toucher d'argent, qu'on soit tennisman ou autre. Donc, par exemple, un joueur qui aurait, ça c'est une bonne info quand même, un joueur qui aurait 18 ans, qui passerait une année à faire que des tournois ATP et qui jouerait bien, il peut avoir potentiellement un problème d'éligibilité, c'est-à-dire être éligible pour jouer dans l'équipe parce qu'il aurait touché de l'argent. Et normalement, il n'est pas supposé toucher de l'argent, ou en tout cas, il est supposé toucher de l'argent comme un amateur sous forme de remboursement. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques, mais en tout cas, voilà, c'est les règles émises par la NCAA qui sont importantes, qui sont à respecter. Et lorsqu'on envoie un jeune aux États-Unis, nous, bah, systématiquement, on passe par un organisme qui s'appelle la Clearing House, qui est une affiliation de la NCAA, qui décrète, si tu veux, si l'étudiant est propice à pouvoir jouer, éligible à pouvoir jouer en fonction de ses résultats scolaires, en fonction de ses examens et en fonction de savoir s'il a joué pro, pas pro, etc., etc., si tu veux. Voilà, c'est comme ça que ça se
Yes.
passe.
J'ai regardé en Scred à côté, c'est l'équivalent de l'ATP pour les universités. C'est-à-dire,
C'est
c'est
ça.
la National College Athletic Association.
Association. Ouais, il n'y a pas amateur, tu vois, mais c'est ça.
Ouais.
C'est exactement ça.
Ok. Et pour terminer peut-être sur ton expérience aux US, est-ce que tu as fait deux, trois bringues mythiques ou un spring break qui a dérapé? Et maintenant, il faut que tu balances, Charles. On va pas
Allez,
trop tourner autour du pot là.
prescription. Il y a prescription. Allez. Non, mais ouais. On a évidemment les soirées aux États-Unis en université, c'est quelque chose aussi de mythique. Alors, pour le coup, Pepperdine était très calme parce que c'était une université qui était assez qui était catholique. C'est comme souvent les universités privées aux États-Unis. C'est protestant, catholique, peu importe, mais en tout cas, ils sont assez croyants. Bref, c'est assez.
Carré, ouais.
Assez carré là-dessus, et c'était pas donc pas une université où ils autorisaient à faire nécessairement beaucoup la bringue, il fallait aller à l'extérieur. Maintenant, on a fait énormément de campus où là c'était de la folie. pour ne pas les citer, ouais, UCLA, USC, je me souviens d'Arizona State. Arizona State, c'était quelque chose d'incroyable. Tu arrives au plein milieu du désert, c'est un campus de 50, 60 000. Pareil, stade de foot, on était allé voir le match, il y avait 80 000 personnes. Et le soir, c'était, en fait, il fait chaud toute l'année, donc c'est hyper cool. Tu sors en t-shirt toute l'année, même en plein hiver. Il y a des piscines partout, il y a des pool parties, il y a des boîtes, il y a des bars, il y a, enfin bon, c'est complètement dingue. Tu t'éclates, tu te demandes d'ailleurs comment ils font pour étudier. Mais c'est, si je dois me rappeler un souvenir, ouais, Arizona State, ça fait partie vraiment du sommet des souvenirs de fêtes, on va dire, qu'on a pu vivre quand on était aux États-Unis, clairement.
Et t'es allé faire Spring Break en Floride ou pas?
Non, jamais. Jamais, parce qu'on n'a jamais vraiment eu le temps avec le, entre une chose et une autre. Et puis bon, c'était quand même à perpète. On était vraiment de l'autre côté. Donc on n'a jamais eu, j'en connais qui l'ont fait. C'est vrai que c'est, ouais, c'est, on est dans la bringue, dans tous ces délires, quoi.
Bon,
Donc,
là, là, moi, j'ai été sevré pendant 2 mois de soirée après Spring Break. J'en pouvais plus. J'étais au bout de ma vie. Vraiment.
Parce que t'étais où déjà en fac,
J'étais
toi?
en Alabama, à Troy, dans le sud de l'Alabama,
Ah oui,
au nord de la
exact.
Floride. Donc on
Exact.
était à 3 heures de bagnole.
Ouais, donc facile d'accès, ouais.
Et en plus, j'ai eu le privilège de ne pas être sélectionné pour la rencontre pendant Spring Break. En rentrant, en fait, on a fait 5 jours avec les deux équipes, mec-fille, histoire de relâcher un peu la pression. On est rentré cramé au troisième degré parce que c'est le premier soleil de l'année. Tu fais du jet ski torse nu à 2 grammes, ça n'a ni queue ni tête. Et je suis rentré, j'étais pas sélectionné, donc je suis retourné 4 jours.
D'accord.
Et j'ai perdu littéralement 2 ans de vie, je pense, vraiment. C'était vraiment
Ouais, bon,
n'importe quoi.
c'est mythique. C'est vrai que Spring Break aux États-Unis, c'est quelque chose d'ailleurs qui n'existe pas trop, qui n'existe pas en Europe, mais ouais, c'est dingue, c'est dingue.
Halloween ou des trucs comme ça, non? T'as pas fait
Ouais,
là-bas?
si, mais c'est vrai qu'en étant nous, avec le, on avait un programme au niveau tennis qui était quand même intensif et. Si, on a dû le faire, je t'avoue que ça remonte, hein, ça fait plus de 30 ans, mais si, écoute, des brinques, je pense
Un
on en a
concert
fait quand même,
un
on a fait un
concert de
paquet.
ouf que t'as vu aux US.
Ah
J'ai
bah,
atterri à un concert de U2, mais sans Manu Estavar.
U2, deux fois, Los Angeles, Red Hot Chili Peppers, à l'époque, quand il démarrait, c'était le démarrage. Ouais, à Los Angeles, il y avait tout ce qu'on voulait, on a fait des bars, on a vu, je me souviens, on est allé dans un bar avec McEnroe aussi. Ah, j'ai une anecdote avec McEnroe qui est sympa, ouais. Où il était venu à Malibu, il habitait Malibu à l'époque, et lui, il jouait encore, si tu veux, c'était 91, c'était la fin de sa carrière. Et il a débarqué un jour, on s'entraînait, il est arrivé avec ses lunettes comme ça, avec son short, son t-shirt à moitié troué, comme un clodo, et comme il était, quoi. Et avec une raquette comme ça, et il nous a demandé si on voulait jouer, donc il y a un des mecs qui lui a dit, ouais, pas de problème, et il s'est mis à jouer avec les mecs, et là, j'ai vu ce que c'était qu'un génie, quoi. Il s'est mis au filet pendant un quart d'heure, il n'a pas loupé une balle pendant un quart d'heure, il touchait les lignes à chaque fois. Et là, j'ai compris pourquoi il avait gagné 3 fois Wimbledon, quoi. C'était une expérience assez intéressante et le mec nous a raconté 2, 3 anecdotes derrière. Sympa, mec, très sympa.
Énorme. Et
Ouais.
t'as eu une copine là-bas pendant que tu étais?
Non, j'avais ma copine en France.
Ah ouais, dur à gérer ça.
Ouais, et on est restés ensemble et on est toujours ensemble et ça fait 30 ans. Plus de 30 ans.
Incroyable. Ah
Donc,
ouais.
ouais, c'était solide. Et non, j'avais ma copine en France. Donc, je revenais à Noël. Enfin, tu connais, hein, je revenais à Noël, je revenais l'été, 3 mois. Et puis, elle venait de temps en temps. Elle était étudiante, elle venait me voir de temps en temps, quoi.
Énorme. Et donc, tu as ton diplôme, c'est ça? Tu fais un
Ouais.
diplôme de quoi?
En business. J'ai fait un bachelor en business et je pouvais faire, bon, derrière, enchaîner avec faire un master. Et là, pour le coup, comme je jouais bien, j'avais clairement envie d'essayer l'aventure du circuit pro. J'avais la niaque pour aller sur le circuit pro. Donc je me suis dit, j'y vais, je fonce, je me mets à bloc sur le circuit, j'essaye de percer. Je me donne, en gros, je m'étais donné 3-4 ans, si tu veux, pour percer, pour aller dans le top 100, pour jouer Roland Garros. En gros, c'était un peu mon rêve à hein, moi.
Et attends, avant de basculer sur le circuit pro, une ou deux galères en anglais aussi, parce que on a l'impression que c'est de l'inné après coup, mais quand on arrive
Ouais.
là-bas, c'est pas la même. Tu peux nous raconter juste ce passage-là?
Alors ouais. En anglais, j'étais pas une foudre au départ. Bon, j'avais eu le bac, mais en anglais, j'étais quand même pas terrible. Je comprenais à peine. J'avais du mal avec l'accent, surtout au début. Et quand je suis arrivé là-bas, c'était une catastrophe. C'est-à-dire que c'est une chose de parler, d'avoir un peu de vocabulaire. Enfin, bon, tu sais ce que c'est. Et puis, t'arrives là-bas, t'as l'accent. En plus, dans le sud, là où t'étais, je pense que c'était pire. Donc tu comprends. Enfin moi personnellement, je comprenais rien au début. Les mecs ils me posaient des questions, je disais oui. Je pense que je répondais à côté une fois sur deux. Et donc au début galère, première semaine. Maintenant ça vient très vite. Quand t'es immergé dans le truc, que t'as pas le choix, qu'il faut que tu communiques, que tu prends des cours. Alors les cours sont faciles au début, c'est des QCM hein, généralement la premier semestre. Il y a pas beaucoup de rédaction. Donc ça c'est le côté plus cool. Il y a même des cours pour les étrangers hein, où on fait de l'apprentissage de l'anglais intensif. Donc moi j'ai eu la chance de bénéficier de ça. Mais oui, grosse, enfin galère les premières semaines, mais par contre les progrès sont assez fulgurants quand même. On se rend pas compte à quel point quand on est immergé on finit par capter la langue, qu'on soit doué ou non, on y arrive et on se démerde. Donc c'est rare, moi j'ai rarement vu, pourtant on a envoyé quand même des wagons et des wagons de mecs aux États-Unis, j'ai rarement vu des mecs revenir parce qu'ils n'arrivaient pas à parler, ça n'existe pas quasiment.
Et t'es reparti, tu parlais comme tu respirais?
Comme je respire, oui, je parle, ouais, au bout de 4 ans, heureusement quand même, que j'étais bilingue, sinon vraiment je suis complètement antidoué. Non, je parle. Voilà, c'est ça, ouais, sous talent. Non, je parlais bien anglais, je parle toujours parce que dans le boulot je parle souvent, je suis souvent amené à parler anglais. Mais oui, c'est un des aspects quand on part aux États-Unis, qu'on revient, on est bilingue à vie, hein, clairement. Il y a aucun, c'est clair. Et c'est juste, c'est aussi une des forces quand on va sur le marché du travail derrière, par rapport à quelqu'un qui aurait fait ses études en France simplement, quoi.
Yes. Donc tu te donnes 3-4 ans, tu montes quand même 191e mondial, tu joues Guga à Roland 98. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas pris plus que ça?
Écoute, c'est difficile à. Moi, je pense que j'étais déjà j'étais pressé, tu vois. Je voulais que ça arrive, voilà. Pour tout ce que je fais, j'ai
T'es
tendance à être pressé.
un mec pressé, non?
Non, mais voilà, je suis impatient, j'ai envie que ça arrive, donc je donne tout, mais j'ai envie que ça arrive. Et je m'étais dit, en fait, avec du recul maintenant, je me dis, voilà. J'ai joué, j'ai pas joué si longtemps que ça, parce que je suis revenu en 95, j'ai joué Roland en 98, tu vois, il y a eu 3 ans. Pour moi, j'ai l'impression d'avoir joué 10 ans, en fait, tu vois, déjà parce que j'étais pressé, que je voulais que ça arrive et je trouvais que ça avançait pas assez vite. Mais finalement, je suis monté assez vite, si tu veux, dans le top 200, ce qui était déjà pas mal, hein, tu vois. Et puis, quelque part, j'ai joué, en effet, cette année-là, Roland Garros, j'ai eu la chance de jouer Guga sur le central. Bon, de la chance et en même temps, c'est ce qui un peu m'a mis le coup de massue sur la tête parce que je me suis rendu compte, si tu veux, quelque part un peu du gouffre qui existait entre un mec comme moi qui était pas maladroit, qui était un bon joueur de tennis et puis les vrais champions, on va dire. Et là, je me suis dit, en fait, je me suis posé la question. Déjà, j'ai pris une énorme tôle ce jour-là. Ça m'a un peu, si tu veux, je rêvais de ça depuis tout petit. Et le fait de vivre le truc un peu comme un cauchemar sur le jour où j'ai joué, ça m'a un peu calmé. Et
Tu as
puis,
pris combien?
hop, passons.
Et tu sais que. Attends, juste avant d'aller plus loin. Ah ouais, 0, 2 et 2, ouais, elle est sèche. Et avant d'aller plus loin, ça tombe qu'actuellement, je suis en train de lire la biographie de Kuerten. Il était donc tenant du titre de 97 et il avait
Ça.
tellement de pression, tellement d'attente, je crois qu'il s'est fait cirer juste après toi. Et il
Ouais,
avait
par sa fine.
qu'une. Voilà, par Safine, ouais, qui sortait des qualifs. Et il avait qu'une hâte, c'était de rentrer se reposer au Brésil. Et à ce moment-là, il était au bout du rôle. Donc au final, c'était plutôt un
Ah,
bon tirage.
dommage,
C'était
j'aurais pu en profiter. Non, bah, j'en ai pas
un bon tirage,
profité.
mais il y avait quand même un gap, quoi, que
Non, mais
tu.
si tu veux, quand tu joues, c'est vrai, un certain niveau pro, mais qu'après tu montes d'un cran, que tu joues sur un énorme terrain, un terrain un peu mythique où t'as rêvé de jouer quand t'étais petit, quelque part, tu te crispes légèrement. Et c'est ce qui s'est passé, je me suis crispé, bref, je me suis crispé quand même malade, ce qui fait que j'étais pas du tout efficace, si tu veux, dans mon jeu. J'avais un jeu, j'étais un peu bourrin sur les bords, donc il fallait quand même que dès que je me crispais, ça avançait plus, quoi. Donc bref, tout ça pour dire que ça m'a fait réfléchir, et puis surtout, je me suis dit, je me suis pas vu, si tu veux, finalement, rester 10 années à aller dans cette direction-là. Voilà, ça m'amusait, j'adorais ça, je trouvais ça génial, et en même temps, j'ai toujours eu, en fait, au fond de moi, j'ai toujours eu cette flamme de vouloir créer ma boîte, créer mon truc, tu vois, de partir un peu à l'aventure sur ce sur ce côté-là de la vie. Et je savais, depuis longtemps, je savais que j'avais envie d'essayer de créer un truc, de faire ma propre entreprise. Et donc, j'ai foncé, si tu veux, fin 98, je m'y suis mis. Et puis, j'ai continué quand même à jouer, tu vois, sur le circuit français de manière un peu plus amateur. Ouais. J'étais toujours en première série et pendant 3-4 ans, mais en même temps, j'avais une vie à côté et ça me déplaisait pas, si tu veux. Ça créait c'était une bonne forme d'équilibre pour moi, en fait, au final. Donc,
90, tu crées ISP à l'époque.
Voilà, c'est ça, ce qui était en fait la première, on va dire, la première agence de placement pour des jeunes qui voulaient partir en université américaine, justement, des sportifs, quel que soit le sportif, c'est-à-dire qu'on je m'occupais des tennisman, des basketteurs, des footballeurs, des nageurs, des athlètes. J'ai envoyé de toutes sortes de sportifs, si tu veux, des gars qui simplement avaient le niveau. Je m'étais dit à l'époque, je voyais le système universitaire, je voyais qu'il y avait des bourses dans tous les sports, je me suis dit, c'est fabuleux. Pour des Européens qui connaissent pas le système, je me souviens que les premiers athlètes que j'ai envoyés, c'est deux athlètes qui venaient de Bondy, je crois, qui avaient quasiment même pas de quoi me payer les honoraires qui étaient de, je crois, 4000 balles ou 5000 balles à l'époque.
Bah ouais, francs.
4000 francs, ouais, 5000 francs. Et en fait, je leur avais obtenu une bourse complète à tous les deux. Ils en revenaient pas. Ils faisaient du triple saut et du sprint, je crois. Et ils sont partis 4 ans là-bas, en bourse tout compris, tout payé. Et alors qu'ils n'avaient pas une thune. Et voilà, ça a commencé comme ça. J'en ai envoyé une dizaine, une quinzaine, et puis après une trentaine, une cinquantaine.
Et t'as fait comment? T'as pris la liste des universités, tu les appelais une par une en disant coucou, j'ai deux athlètes.
Ouais, j'ai commencé, j'ai étudié un peu le système, j'ai contacté.
T'étais un peu commercial à ce moment-là, tu les vendais quoi.
Ouais, je disais voilà, j'allais voir les facs, je disais j'ai des sportifs, j'ai des tennisman qui jouent bien, des athlètes, etc. Est-ce que ça vous intéresse? Donc j'avais des listes d'universités, j'envoyais à pas mal de coachs au début parce que je connaissais pas toutes les facs et donc je tapais large. Et puis après au fur et à mesure, si tu veux, j'ai affiné parce que j'avais eu des relations privilégiées avec certains coachs, donc que j'envoyais des gars plus dans certaines facs. Et puis ça dépendait aussi, si tu veux, des je choisissais certaines facs aussi par rapport à des paramètres sportifs, des paramètres académiques, des paramètres d'examen. Il y a des facs qui acceptaient avec des examens plus bas, etc. Donc, c'était plus facile pour un Français qui avait un niveau d'anglais moyen de partir dans certaines facs. Bref, je prenais en considération tous les paramètres. Et rapidement, si tu veux, c'est devenu un truc où j'envoyais 50, 60 athlètes par an, sportifs, y compris des tennisman. Donc ça devenait une activité à part entière que je développais et qui était très sympa parce que moi je trouvais ça déjà très intéressant et puis j'avais l'impression de servir quand même à quelque chose, de pouvoir, si tu veux, donner la possibilité à des jeunes de partir tout frais payé en université, faire des études et du sport, ça me paraissait quand même quelque chose d'intéressant. Donc,
ISP, c'était pas un sport-études aussi? T'étais
alors unique. ISP, en fait ISP, pendant 4-5 ans j'ai fait ça, si tu veux, et je continuais à jouer. D'accord. En France. Et puis après, j'étais à Paris, en fait, l'agence était à Paris, j'avais mes bureaux à Paris.
Ça voulait dire quoi, ISP?
International Sport Partner.
D'accord.
Voilà. Et après, en fait, de fil en aiguille, si tu veux, on en est venu avec ma femme qui était prof de scolaire, hein, physique chimie. On en est venu à se dire que, en fait, les parents, si tu veux, revenaient souvent vers moi en première. Ils me disaient, on aimerait bien envoyer notre fils aux États-Unis, mais on n'a pas la structure pour l'instant pour concilier études, tennis. Si t'es pas à la Fédé, si tu veux, c'est compliqué. Ouais. Il apprend pas l'anglais. Bref, c'est extrêmement compliqué. On peut pas l'amener en tournoi, etc. Donc, je me suis dit avec ma femme, pourquoi on créerait pas une école comme ça existe aux États-Unis avec Bolitieri à l'époque, un sport-études, quoi, un sport-études privé. Donc, on a regardé la carte. On s'est dit bon, où est-ce qu'on pourrait faire ça? On s'est dit évidemment dans le sud, c'est quand même l'endroit où le faire. On va pas le faire dans le nord. Et on va le faire, on va essayer de le faire. Ouais, c'est plus compliqué. On va essayer de le faire donc à côté d'un endroit, si possible un aéroport et si possible un aéroport international. Donc, c'est vite devenu évident pour nous qu'il fallait essayer de créer un truc autour de Nice. Ouais. Donc moi, je suis parti prospecter, si tu veux, les endroits où on pouvait associer école, internat, etc. Parce que c'est compliqué évidemment de faire un sport-études. Il faut avoir tous les éléments sur un même site quasiment. Et donc on est arrivé à Sophia Antipolis. Tu veux Sophia Antipolis, c'était l'ancien site mythique où AG Lower et Noah avaient une académie dans les années 80-90, qui était tombée un peu à l'abandon, qui avait été rachetée par un hôtelier, et il restait 20 terrains de tennis, si tu veux, quasiment à l'abandon. Et il se trouve qu'il y avait une école que j'avais contactée à l'époque qui s'appelait CID, Centre International de Valbonne, où il y avait un campus et il y avait un proviseur qui était très sympa, qui nous avait dit, moi, si ça vous intéresse, je vous mets des profs à dispo pour votre école, vous faites vos cours, vous payez les chambres d'internat et comme ça, on a le tennis, tous les terrains à côté. Donc, on a commencé. Première année, on a eu une vingtaine d'élèves. Deuxième année, on a eu une quarantaine, puis 60, puis 80, puis 100. On a monté des stages, on a monté plein de choses, on a fait des milliers de semaines de stages, et puis ça a grossi, grossi, grossi. Voilà, jusqu'au point où, si tu veux, 5, 6, 7 ans plus tard, on en est venu à l'idée qu'il fallait créer notre propre site à nous, avec notre campus, et c'est là où, si tu veux, on s'est associé avec Patrick Moratoglou, et on a fait ensemble l'Académie Moratoglou, qui, lui, existait déjà à Paris. Son académie était située à Paris. Elle était à 30 bornes de Paris, c'était pas nécessairement le lieu le plus adapté pour lui pour développer en termes géographiques et climat. Donc quand on s'est parlé, pour lui c'était une évidence aussi, et on a fusionné, si tu veux, on a créé en 2014-2015, on a créé le nouveau campus, si tu veux, qui était sur le même site où on était, sur lequel on a créé le nouvel internat, le nouveau clubhouse, on a créé 15 terrains de plus. Au lieu de 21, on avait 35 terrains, et qui a pris la forme qu'on connaît aujourd'hui de l'académie, si tu veux, de l'académie Moratoglou. On avait 180 élèves. Donc, on a fait une école française avec horaire aménagé, privée, ouais. Et une école américaine aussi. Donc, il y avait les deux, hein, donc français et étranger, avec évidemment toujours l'objectif de, d'une part, d'avoir des joueurs ou des joueuses qui passent pro, et puis d'autre part, d'envoyer la plupart, évidemment, en université américaine. Ça a démarré, si tu veux, d'un petit truc à l'abandon quasiment il y a en 2004-2005 avec le sport études, et puis c'est devenu un truc énorme une douzaine d'années plus tard. Donc c'est voilà, c'était une belle aventure. Ouais, c'est une belle aventure.
Et pourquoi avoir migré au Cap d'Agde? Qu'est-ce qui s'est passé avec Patrick? Pourquoi vous avez arrêté?
Bah on s'est séparés, voilà, à un moment. Voilà, la vie fait qu'à un moment on s'est séparés. On a fait 3 ans ensemble. Lui était sur la partie vraiment développement haut niveau. C'était le coach, quoi, hein, comme on le connaît, avec la renommée du coaching. Moi, j'étais plus sur la gestion et la gestion au quotidien, si tu veux. J'étais directeur général. Et puis, il y a un moment où, voilà, Patrick, lui, était un peu moins sur le circuit. Il voulait aussi être plus aux manettes, peut-être. Donc bref, on s'est séparés fin 2017, je crois. Et puis il s'est trouvé un an plus tard que, en fait, le Cap d'Agde avait une infrastructure qui ressemblait un peu, si tu veux, à celle de Sophia Antipolis à ses débuts. C'est-à-dire, c'était une infrastructure qui était assez mythique, qui appartenait à Pierre Barthez à l'époque, dans les années 80, on remonte encore plus loin, où il y avait à l'époque 70 terrains. Mais les gens qui ont plus de 40 ans savent de quoi je parle. C'était un truc de dingue où il y avait 500 élèves par semaine en stage l'été à l'époque. Et en fait, dans les années 90, quand le tennis a chuté, Pierre Barthez, l'activité est descendue. Il a dû, pour X raisons, se séparer de cette activité. Et c'est la mairie, si tu veux, qui a repris en régie l'exploitation du site en question. Et donc pendant une vingtaine d'années, ça a été géré par la municipalité sous forme de club, avec ses atouts et ses inconvénients, hein, une gestion municipale. Et donc on était à un stade où en 2018, où le club vivait par les membres, mais il n'y avait pas de dynamique, on va dire, comme à l'époque d'académie. Donc ils ont fait un appel d'offres où ils voulaient ils veulent toujours utiliser, si tu veux, l'objectif c'est d'utiliser aussi l'image du sport, par le biais du sport ils veulent développer l'image du Cap d'Agde de manière positive, et donc ils pensent que le sport est un levier intéressant, et ils ont raison, je pense, et donc ils ont fait un appel d'offres pour savoir qui pourrait reprendre l'exploitation de ce site là ouais. Et donc fin 2000, un an et demi plus tard, après l'épisode ISP Moratoglou, on a remporté l'appel d'offres, et donc on a repris l'exploitation du site avec 30 terrains de tennis, 8 terrains de paddle, terrain indoor, extérieur. On a reconstruit, on a acheté le terrain qui est juste à proximité, collé au club actuel. Et là, on est en train de finir l'internat, si tu veux. Donc, on va avoir notre propre internat dans 2 semaines, là. Et là, c'est pour ça que je suis un peu sur les nerfs. c'est ça, ouais. On va avoir notre propre internat dans 2 semaines. Donc, si tu veux, là, on va avoir en fait une académie avec la partie évidemment sportive, mais aussi l'internat sur place, l'école sur place. On a nos
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Propre salle de cours, on a monté déjà notre école avec nos profs, donc on recommence, si tu veux, en fait, un système avec toujours pareil, le placement en université américaine pour les étudiants. On a actuellement, on a une soixantaine d'élèves avec une capacité de 80 max, parce que je veux pas aller au-delà et je veux pas que ce soit, allez, on va dire, tu vois, que ça devienne trop une usine où on sait plus qui est qui. Je pense que 80, pour moi, c'est la limite pour garder un aspect, on va dire, familial, tu vois, et de qualité.
Alors, merci pour ces précisions pour contextuelles, en tout cas, pour mieux situer. Et donc, c'est assez fou parce que de l'idée à Paris, de l'ISP à Nice, à Sofia, aujourd'hui aussi, tu co-exploites l'académie de Rafa Nadal au Koweït. Donc, c'est assez, assez incroyable, ouais, cette aventure, j'ai l'impression. Mais on va recentrer sur les US. Vous avez envoyé plus de 900 joueurs, vous avez placé plus de 900 joueurs en université américaine. Vous êtes partenaire avec 160 universités. Est-ce que tu peux nous dire du coup le cheminement, les services que tu offres, à quoi ça correspond précisément ?
Ouais. Eh bien, écoute, aujourd'hui, un élève qui souhaite partir aux États-Unis, il s'y prend généralement, alors suivant s'il intègre l'école ici ou pas, mais généralement, il s'y prend deux ans et demi avant le départ. Et nous, le service avec notre partenaire avec qui on travaille, Antoine Ledoré et Elite Athlète, que tu auras l'occasion, je crois, de discuter, qui sont spécialisés dans le placement des élèves aujourd'hui, comme moi j'ai fait, sauf que aujourd'hui, je le fais plus personnellement. Avant, on le faisait personnellement. Là, on le fait directement avec cette personne qui s'appelle Antoine Ledoré. Le processus, il est simple, c'est on s'inscrit et à partir du moment où on s'inscrit, on prend en charge le dossier de A à Z. C'est-à-dire qu'on va démarrer avec le processus d'inscription classique, on va inscrire les jeunes aux examens, on va leur faire passer les tests indispensables, TOEFL et SAT, on va leur faire une vidéo, on va créer, si tu veux, le contenu pour pouvoir présenter une candidature, avec l'objectif de présenter la candidature en gros un an avant au coach, en fonction du niveau. Ça peut être un an et demi avant, même pour les grosses facs, mais grosso modo, on commence un an avant, jusqu'au placement, jusqu'à la signature de la bourse, jusqu'à l'acceptation dans l'université et jusqu'à l'obtention du visa. Et après, une fois qu'on a fait ça, bah, le jeune, à ce moment-là, est admis en université. On s'est mis d'accord avec la famille pour le budget. On a négocié la bonne bourse dans la bonne fac. Il part. Et derrière, l'objectif, c'est pas qu'on le lâche non plus complètement dans la nature, mais qu'on puisse quand même effectuer un suivi avec lui, pour savoir si ça se passe bien, pour savoir s'il peut y avoir un moment un changement de fac. Ça arrive, hein, c'est allez dans, on va dire, dans 10% des cas, je pense à peu près, mais ça peut arriver.
Pas plus que l'objectif... ça le transfert.
Non, je
crois qu'il est possible de transférer dans les deux premières années, hein, pas au-delà.
Ouais, c'est ça, ouais. Allez, peut-être un peu plus que 10%, mais moi, en tout cas, à mon époque, c'était à peu près ça. Là, il faudrait voir avec Antoine quel est son ratio, mais je pense que c'est à peu près ça. Donc voilà. Donc l'objectif, ce qu'on fait, c'est qu'on les parents finalement n'ont plus à s'occuper de rien quasiment, si ce n'est à nous faire confiance sur le fait qu'on a une capacité à aller toucher la bonne fac avec notre expérience, notre histoire, parce que le but, c'est de toucher la bonne fac avec le bon deal, avec le bon coach, avoir un bon compromis entre tous les ingrédients qu'il faut pour pouvoir partir aux États-Unis. Voilà, c'est l'objectif. Et après, l'objectif de l'école, c'est de pouvoir pousser le curseur et de dire, voilà, t'es à 3-6, par exemple, t'es parti à 3-6 aujourd'hui. Bah, à 3-6, c'est sûr que c'est de plus en plus difficile de partir parce qu'il y a de plus en plus de mecs qui veulent partir de quatre coins du monde. Donc aujourd'hui, c'est plutôt, moi, je conseille ceux qui écoutent d'essayer d'obtenir plutôt un niveau 1-6 que 3-6 minimum pour pouvoir partir dans des bonnes conditions. Donc nous, notre rôle, par exemple, avec l'école, c'est de pouvoir pousser à bloc, les entraîner 4 heures par jour. Et on a même, si tu veux, un programme ici, ou BTS, où après le bac, tu fais une année, en fait, Tu continues à faire des études par correspondance, là pour le coup par correspondance en BTS, tu fais une année, tu t'entraînes comme un malade, tu fais des tournois et tu boostes ton classement. Tu vois, quand tu as 18 ans, tu passes une année, tu boostes ton classement et tu pars dans des meilleures conditions après une année. Voilà, c'est en tout cas, c'est un des nerfs de la guerre, c'est quand même d'avoir ce niveau, évidemment, en tennis, allez, 2-6, 1-6, je pense, minimum, maintenant, quasiment. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas partir à 3-6, mais ce sera plus dur. Évidemment, un niveau d'anglais indispensable pour pouvoir partir aussi. Sinon, on peut très bien négocier un contrat de bourse, finaliser quelque chose avec un coach, mais parallèlement, ne pas arriver à faire accepter l'étudiant parce qu'il n'a pas le bon niveau d'anglais. Ça arrive aussi.
T'as combien de bourses à 1-6-2-6 les classements où tu dis 1-6-2-6-0 les classements où tu conseilles de partir?
Alors, c'est difficile de dire combien de bourses parce que ça dépend de la fac. Tu peux être à 1-6, jouer dans une petite fac, entre guillemets, qui va être en dehors du top 300. T'as des facs en dehors du top 300 qui vont vouloir recruter un mec à 1-6-2-6 qui va être dans les trois premiers de l'équipe et il va avoir 75-80% de bourses, tu vois. Et en même temps.
Donc, il va devoir sortir, quoi, entre 5 et 10 000 euros sur l'année.
Voilà, ça c'est dans le meilleur, je dirais c'est quand même le meilleur des cas. À 1-6, quand tu arrives à ça, c'est que tu arrives à avoir vraiment un bon deal. On y arrive, mais c'est pas évident. Si tu veux avoir un deal comme ça et être sûr d'avoir un deal comme ça, je pense que allez, il faut être à zéro.
D'accord.
Si tu es à 2-6, 1-6, entre 3-6 et 1-6, je pense qu'il faut viser, si tu veux avoir une fac qui tient la route, il faut viser plus une bourse qui est entre 50 et 60 aujourd'hui. Je dis pas que c'est pas possible d'aller au-delà. Mais encore une fois, je pense que c'est plus raisonnable de dire tu as 50% de tes études qui sont payées quand tu es allé jusqu'à 1-6. À 1-6-0, tu peux avoir 70-80. Et à partir de négatif, tu peux avoir quasiment… si tu peux choisir une fac où tu as la totalité, tu peux aussi toujours choisir une fac, même quand tu es à négatif, à moins 2, moins 4, où ça va être au top dans le classement américain et où tu vas avoir une bourse plus basse aussi. Tu vois, tu as toutes sortes de facs, toutes sortes de niveaux, quoi.
Ou alors, option 2, pour ceux qui sont un peu moins bien classés, c'est aller chercher, admettons, tu es à 3, 6, 4, 6, tu vas chercher une division 2, où, voilà, ouais. Et à combien tu peux prétendre dans une université vraiment bas de tableau, division 2, à 4, 6, admettons, tu vois, la fourchette, ou même à 15, ouais. Tu vois, est-ce que tu peux tirer ton épingle du jeu même à ces classements-là?
Alors, je te dirais oui, moi, j'ai envoyé des mecs à 15 en junior collège, par exemple, 15, 5, 6. Junior collège, c'est… Alors, tu as la division 2, tu as division 1, division 2, et tu as junior collège. Junior collège, c'est une fac de 2 ans. C'est un peu l'antichambre de la fac normale. Tu fais tes 2 années, et au bout des 2 années, tu transfères dans une division 1. Je sais pas si tu connais, mais c'est un système qui est pas mal parce que c'est un système intermédiaire, plus facile d'accès. Et les facs sont beaucoup moins chers. Une fac, ça peut valoir 15 000, 20 000 dollars. Tu vois, dans le sud des États-Unis, t'en as 15, 20 000. Si t'as une.
Est-ce que c'est des facs qui ressemblent pas à grand chose, du coup, ou ça reste quand même à l'américaine et ça envoie du lourd?
Non, ça reste, ça tient la route. Si tu compares ce qui se fait en France, ça vaut largement n'importe quelle fac française. Après, c'est pas
à l'IUT de Dijon, par exemple, c'est mieux.
Voilà. Là, je pense que ouais, on est plutôt au-dessus. Mais, okay. Mais c'est pas évidemment la même chose qu'une division 1 ou une grosse division 2. Okay. Pour faire simple, division 2, pour répondre à ta question, oui, 3-6, 4-6, tu peux trouver, et tu peux trouver au-delà de 50%, mais je dirais petit bémol, c'est que depuis quelques années, la compétition est de plus en plus relevée. Donc même en division 2, attention, ce qu'on faisait à l'époque, il y a quelques années encore à 4-6, ça devient de plus en plus difficile de le faire parce que la concurrence monte. Donc oui, c'est possible, un peu plus difficile qu'avant, mais on peut avoir jusqu'à 70-75% de bourse en division 2, même à 3-6, 4-6, c'est possible, mais difficile. Donc je conseillerais quand même en division 2, hein, d'être à 2-6 minimum. Et après, junior collège, c'est la dernière option. Là, tu es à 3-6, 4-6, 5-6, allez. T'as pas le niveau pour aller en division 1 ou division 2, tu fais 2 années, ça peut te coûter peut-être 15 000 dollars l'année, tu vois, ce qui est tout à fait raisonnable quand tu parles de logement, nourriture, études, etc. Ça te coûte peut-être moins qu'en France si tu dois prendre un appart et faire des études. Et là, si tu te démerdes et que tu progresses, à ce moment-là, tu transfères au bout de 2 ans dans une division 2 ou une division 1. On en a des exemples de mecs qui ont fait ça aussi.
D'accord. Muy bien. L'année à la French Touch, la fameuse année dont tu parlais après le bac, où tu peux matcher comme un ouf, booster ton classement. Je crois que vous incluez 20 tournois dans le programme, au moins 4 heures d'anglais sur la semaine, et 6 heures d'anglais et 4 heures d'entraînement par jour quasiment. Elle coûte combien cette année-là?
C'est 30 000 euros, grosso modo, à 500 euros près. Hein. J'ai plus les chiffres en tête, mais en gros, logement, nourriture, études et anglais renforcé, études BTS, suivi études BTS quand même, et entraînement tournoi, c'est t'en as pour 30 000 balles en gros
Et c'est
l'année.
BTS pour tout le monde ou c'est variable?
Alors c'est BTS pour tout le monde. Pourquoi? Parce que en fait, si tu veux, la formation BTS te permet de transférer aux États-Unis en
D'accord.
MUC, là, en management des unités commerciales. Alors ça s'appelle plus comme ça, mais c'est une filière qui transfère assez facilement. Donc ça veut dire que quand tu as fait ton année, derrière tu peux faire tes 3 ans au lieu de 4 ans aux États-Unis. Si tu veux, tu as
Ah
déjà
ouais, bien
accompli
vu.
quasiment une année, tu vois.
Ouais,
Tu peux
ouais.
faire aussi 2 années de BTS si tu veux et partir pour 2 années. C'est possible aussi, c'est une variante. Mais surtout, le plus important, c'est que ça te permet, sur cette année-là, en tout cas, c'est l'objectif, de prendre 2, 3, peut-être 4 classements. Tu vois, là, on en a, ils sont arrivés à 4-6, ils finissent à 1-6, voire à 0. Bon, bah, ils vont partir, ils vont atteindre leurs objectifs et partir vraiment dans les conditions qu'ils veulent. Donc, c'est un investissement, certes, c'est clair, mais je trouve que le jeu en vaut la chandelle, quoi. À partir du moment où tu mets les gaz au niveau tennis, évidemment, il faut être motivé, il faut en bouffer, quoi. Sinon, ça marche pas.
Ouais, vous allez forcément dans le lot qui gagne pas un match pendant la saison, et là,
C'est
c'est
ouais, des
chaud,
mecs
là.
qui savent pas ce qu'ils veulent, ou alors des mecs qui savent pas assez ce qu'ils veulent, encore, ils sont là, mais ils savent pas, et voilà, pas plus tard qu'aujourd'hui, on a encore des problématiques là-dessus, mais ça fait partie du jeu. Mais ceux qui jouent le jeu, ils s'entraînent, c'est simple, ils s'entraînent 6 heures par jour, on les booste à bloc, ils font des tournois tout le temps, donc c'est quand même, on va dire, ils sont dans des conditions où s'ils doivent prendre 3 classements, ils vont les prendre, quoi.
Ouais, logiquement, à 3-6, ça contre pas, là. Si t'es bien
Voilà.
préparé, si t'es gainé sur les appuis, ça passe.
C'est l'objectif en tout cas, clairement c'est l'objectif.
Est-ce que tu peux nous relayer quelques success stories sympas, des anecdotes cool qui t'ont rendu fier, tu vois, des parcours vraiment chouettes de gens que t'as envoyés et tu dis, t'as quand même,
Putain, putain,
c'est cool d'avoir ouvert ces portes-là, quoi.
c'est une bonne question. Alors je vais te dire, s'il y a un truc moi qui peut me rendre fier depuis que je fais ce boulot-là, ouais, en effet, c'est de voir les mecs revenir. 10 ans, 5 ans plus tard, des fois des mecs qu'on a eu à 12, 13 ans, même en sport-études, hein, reviennent à 25 ans. Un, parce qu'ils ont changé déjà complètement, on les a pris branleurs, en gros, de 12, 13 ans. Et ils reviennent, ils ont un boulot, ils sont bilingues, ils se démerdent dans la vie. Et ça, pour moi, c'est un truc, c'est extrêmement gratifiant. Je trouve que c'est, en tout cas, c'est quelque chose qui me touche. C'est pour ça que je fais ce métier. Après, te donner des anecdotes sur des mecs qui ont cartonné, oui, il y en a qui ont été sur le circuit pro. Je pense à des Ryan Peniston qu'on avait, académique et anglais, qui est 120e mondial. Je pense à, il y a pas mal de mecs qui ont été dans les 200 qu'on avait envoyés. Bon, alors, c'est pas tout récent. Mais surtout, je dirais des profils de mecs qui sont revenus et qui ont réussi dans le monde, entre guillemets, réussi dans le monde professionnel, qui ont eu des success stories. Il y en a pas mal. Moi, j'en vois même sur LinkedIn, j'en vois. Ils sont à New York dans la finance. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on voit des gars et leur capacité derrière, avec ce bagage qui est quand même vachement intéressant, d'être allé aux États-Unis, d'avoir fait un bachelor, un master, d'avoir connu 4 ans à l'étranger, etc. Ça donne un bagage extraordinaire. Je citerai Romain Lachance, un pote que j'ai envoyé il y a en 2000. Tu vois, ça remonte. Ça devait être en 2002 à Saint Mary's College en Californie. C'est un gars qui était à zéro. Voilà, qui jouait ses zéros, qui a eu une bourse là-bas, je l'ai envoyé. Bon, c'était un peu dur parce qu'il avait déjà fait des études, c'était compliqué au niveau éligibilité. Il a fait ses études, il est revenu, il a bossé avec moi à l'ISP. D'ailleurs, il a repris un poste important au Paris Lagardère Racing. Et puis de fil en aiguille, il en est venu à faire un master, je crois. Il a rencontré le mec qui s'occupe des JO, le champion olympique.
Estanguet.
Estanguet, avec qui il est devenu pote, etc. Et de fil en aiguille, il en est venu à devenir un des managers, on va dire, un des mecs importants dans l'échiquier, dans l'organigramme des JO aujourd'hui. On est toujours extrêmement proches. Et pour moi, ça symbolise la réussite de quelqu'un qui a utilisé le tennis pour aller se former ailleurs, à l'étranger, en l'occurrence aux États-Unis, et qui derrière s'en sert tous les jours pour faire une carrière et faire des choses vachement intéressantes au plus haut niveau, si tu veux. Donc ça symbolise pour moi la réussite américaine. D'ailleurs, bon, à ce propos, c'est un peu parallèle, mais ça rejoint. Avec Romain, on a décidé de créer ce qu'on appelle US College Athlete Alumni, c'est-à-dire c'est des alumni qui reviennent des États-Unis sportifs qui ont été aux États-Unis. Le but étant de regrouper ces gens-là de faire en sorte qu'ils connectent entre eux, de trouver peut-être des entreprises partenaires qui aimeraient recruter dans ce monde-là. Bref, de faciliter l'accès au monde du travail quand ils reviennent des États-Unis. On s'est dit que ça serait une idée intéressante. On l'a lancé il y a 2-3 mois. Donc, on commence à avoir on a 600 ou 700 abonnés qui sont tous des jeunes qui sont partis aux États-Unis à l'époque. Et on pense, si tu veux, que finalement, le système aujourd'hui, quand tu reviens aux États-Unis, la seule barrière qu'il y a, c'est que t'as pas le réseau quand tu reviens en France pour bosser, c'est un peu compliqué. Donc, on aimerait bien créer ce réseau-là et qu'ils puissent être affiliés entre eux pour pouvoir s'entraider. L'intérêt de l'alumni, c'est de s'entraider pour pouvoir trouver du boulot, en gros. Voilà, pour schématiser. Mais l'idée est assez intéressante et je le fais justement avec ce fameux Romain dont je t'ai parlé avant.
Alors, moi, j'ai deux questions aussi dans le prolongement. Depuis tout à l'heure, on cite quand même des montants assez importants, que ça soit pour venir à la French Touch ou pour partir. Ça peut faire peur, mais quand tu disais, voilà, si tu es 5, 6, 4, 6 et que tu mets 15 000 pour ton année dans une université un peu inférieure, ça peut faire peur, mais c'est vrai qu'au final, moi, j'avais fait le calcul, ça me coûtait aussi cher de partir, je t'ai dit l'IUT de Dijon, ça me coûtait aussi cher de Nevers de partir à Dijon que d'aller à Troy en Alabama.
On est d'accord.
Mais d'accord. De l'extérieur, c'est quand même des montants un peu impressionnants où tu te dis, ouais, le tennis, ça reste un milieu difficile d'accès pour des gens qui ont des moyens et des enfants de parents qui ont des moyens. Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Est-ce que tu aurais une version peut-être un peu complémentaire, différente du terrain?
Ouais. Alors, on ne va pas se le cacher. Oui, ça demande. Ça a un coût. Aller aux États-Unis, ça a un coût, même s'il y a des bourses, évidemment. Ou alors, ça n'a pas de coût, mais ça veut dire que tu as vraiment un niveau important. Aller dans une académie, ça a un coût plus ou moins élevé suivant les académies, etc. Bon, nous, c'est vrai qu'on essaye d'avoir un coût qui reste raisonnable, mais ça reste un coût important parce que, encore une fois, quand tu parles d'héberger, nourriture, l'étude, etc., le coût de l'éducation, c'est un coût important. Donc, on peut pas y couper. Ça, c'est une certitude. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que, enfin, nous, en tout cas, à l'académie, à notre échelle, quand on a un profil qui est motivé, qui a du niveau, qui a du potentiel et qui est prêt à tout déchirer, on fait en sorte que ça arrive. Et on a à peu près aujourd'hui entre 10 et 15% de boursiers à l'académie. Donc, c'est des gens qui ne payent pas le prix, on va dire, classique parce que on croit en eux. Parce que soit ils ont un très bon niveau d'études, soit ils ont un très bon niveau de tennis, soit les deux, ils ont vraiment le profil pour faire quelque chose, en tout cas au niveau des universités américaines ou sur le circuit pro quand ils auront 18 ans. À ce moment-là, on les aide. Il peut y avoir des sponsors aussi qui les aident, ça peut arriver. Maintenant, ça reste 15%, c'est pas 50% non plus. Donc voilà, c'est comme ça que nous, en tout cas, on positionne le truc. Après, c'est ce qui est vrai. Et ce qui est intéressant quand même de rappeler, c'est que une formation, certes, c'est un investissement, mais je pense que, comme tu l'as dit tout à l'heure, à partir du moment où tu pars aux États-Unis, tu pars 4 ans et que tu as une bourse qui tient la route, parce qu'évidemment, il faut avoir une bourse qui tient la route. Si tu es à 3-6 ou 4-6, ça va pas le faire. Donc, encore une fois, je répète, c'est un 6-0. Là, ça tient la route. Tu as un deal au niveau de la bourse qui est solide. Là, je pense que ça vaut l'investissement en vaut la peine, mais ça reste quand même un investissement et tout le monde peut pas se le permettre, c'est clair. C'est clair.
Et les boursiers chez vous à la French Touch, comment ils font pour avoir accès à ce tarif préférentiel?
Alors, en fait, on fait un test nous systématiquement. Quelqu'un qui veut venir, que ce soit pour le centre d'entraînement, le sport-études ou autre, il vient faire un test, il vient une semaine. À l'issue de cette semaine-là, nous, on fait un bilan. On fait un petit bilan, on fait des tests scolaires, tests sportifs, etc. Et à l'issue de ce bilan, on va discuter avec les parents. Deux choses l'une, soit les parents, ils ont les moyens et ils investissent, soit ils n'ont pas les moyens, auquel cas ils peuvent faire une demande. Est-ce qu'elle sera acceptée, cette demande, et dans quelle mesure on est capable dans quel volume, de quel montant on est capable d'attribuer une bourse? Ça va dépendre, encore une fois, c'est difficile à dire comme ça. Ça va dépendre de si on a un joueur qui est à zéro, qui a 15 ans, qui est bon en études et qui a toutes les chances d'être au moins à moins 15, à 17, pour nous. C'est une valeur intéressante pour l'académie, pour peu importe s'il veut aller sur le circuit pro ou en université américaine, c'est quelqu'un qui pour nous a une valeur intéressante et donc on est prêt à faire en sorte de faire de proposer quelque chose qui tienne le plus la route si les parents n'ont pas les moyens de payer, quoi, tu vois.
Intéressant. Et ma deuxième question, pour aller au bout du process, c'est que ça, c'est en fonction de la sensibilité de chacun et ce que chacun a envie de vivre. Mais moi, ce que j'ai vécu aux US, j'ai eu l'impression de me retrouver quand même avec un coach ultra bourrin, parmi des bourrins, dans une ville, une petite ville où tu as une highway, une quatre voies avec des fast-food de chaque côté. Bon, j'aurais pu tomber à Pepperdine avec, tu vois, la GIA Biarritz. Pour moi, c'est le bonheur. C'est ce à quoi j'aspire. Les États-Unis, il y a une partie des gens qui trouvent que c'est bourrin et comme moi. Et t'en as d'autres. Là, j'ai le père d'un de mes partenaires d'entraînement qui est dans le Texas. Et pourtant, le Texas, tu vois, il en revient. Il est allé voir son fils et il me dit les gens sont respectueux, bien éduqués, gentils, doux. Pareil, très croyant là-bas. Et pareil, je l'ai trouvé très bien éduqué. Attention, hein, quand j'arrivais à l'aéroport à Paris, je me disais, mais on est chez les fous. Toi, c'est quoi ta vision du côté bourrin versus le reste?
Je suis assez partagé, en effet. Je pense que les États-Unis, c'est plein de contradictions. C'est génial par certains côtés, c'est assez insupportable pour certains côtés aussi. C'est un peu bourrin sur les bords, c'est différent. C'est, encore une fois, moi, je trouve que c'est des cultures vraiment différentes et les Américains sont très différents des Européens, comme les Asiatiques sont différents des Européens. Ou les Africains, mais donc c'est difficile de comparer. Si tu me dis est-ce que moi j'aurais aimé vivre toute ma vie aux États-Unis, je te réponds non.
Ouais.
Moi je suis français, j'adore la France. Et pour rien au monde, j'ai fait 4 ans, j'ai adoré l'expérience. Par contre, je vivrais pas là-bas. Il y a des mecs, ils sont là-bas 4 ans et derrière ils veulent plus quitter les États-Unis. Voilà. Je comprends ce que tu dis. Il y a un côté comme ça, surtout quand, je reprends tout à l'heure, c'est-à-dire que quand t'es à 3-6, que tu choisis pas ta fac, que c'est une petite fac au milieu de, souvent t'es dans un endroit où c'est un peu plus, pas chaud, mais ça peut être un peu plus compliqué. Dans le sud des États-Unis, t'es au milieu de nulle part, dans une petite ville. Alors, Troy, je sais pas où c'était, mais exactement. Mais
heureusement, c'était à 2 heures de Destin Beach, t'es les plages du Truman Show. Exceptionnel. Bon, mais en l'occurrence, Troy, trou du cul du monde.
Ouais, bon, voilà. Mais il n'en demeure pas moins que t'as vécu si on regarde avec du recul, t'as vécu une expérience quand même.
Et folle.
Aujourd'hui, tu fais ce que tu fais. T'as quand même, enfin, tu vois, moi, encore une fois, quand je regarde les mecs qui viennent des États-Unis, c'est très rare que je vois des mecs qui végètent, quoi. Tu vois, ils ont tous soit fait des parcours d'entrepreneurs, où ils ont percé dans un truc, ou en tout cas, ils ont, je trouve que, alors, pour résumer, la philosophie américaine, je trouve que ce qui est vraiment intéressant là-bas, c'est que tout est possible. C'est qu'il y a un côté quand même, alors, tu peux dire des fois, c'est porté jusqu'à l'absurde. Faut être positif tout le temps, ou un peu exaspérant, c'est vrai, par certains côtés. Et en même temps, je pense quand tu vas là-bas, tu prends un peu de cette philosophie-là. Et je pense que pour un Français, ça mange pas de pain parce qu'on est tellement quand même bougon, négatif, à toujours se dévaloriser, que quand même arriver à avoir cette attitude un peu plus positive et le rien n'est impossible des Américains, je trouve que moi je le ressens chez les mecs qui reviennent sans qu'ils le prétendent. Et je le ressens dans leur manière d'agir, tu vois. Et c'est pas pour rien si sur les 1000 mecs qu'on a envoyés, moi franchement, des mecs qui sont à la rue, j'en ai pas vu beaucoup, quoi, tu vois.
Ouais.
Et c'est pas un hasard, je pense. C'est pas un hasard.
La répartition mec-fille que vous avez envoyée, tu l'aurais 80-20 ou différent?
Non, je dirais 70-30.
D'accord.
Allez, 65-35, 70-30.
Okay.
Il y en a quand même pas mal des filles, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est de plus en plus. Et les bourses, c'est facile. Donc, il y en avait moins avant, mais non, maintenant, ça s'est équilibré quand même, je pense.
Est-ce que tu as des parents qui tiennent absolument à envoyer leurs enfants, alors que les enfants, c'est pas forcément un désir profond?
Ça arrive, mais ça marche pas.
Ouais,
si le gamin, si le jeune, il veut pas partir, laisse tomber. Là, tu vas au devant de problème parce que il va pas s'épanouir. Le coach sera pas content, personne sera content et ça va faire des histoires. Donc non, nous on essaye justement d'identifier quand on a des jeunes. Si à un moment ils veulent pas partir, alors je te dis ça et en même temps bon, il faut les pousser hein, parce qu'ils n'ont pas nécessairement la maturité tout le temps. Mais non, on sent quand même un désir. S'il y a pas de désir d'aller là-bas, c'est compliqué quoi. Compliqué.
Est-ce que t'en as? Entre parenthèses, comme moi, qui ont fait de grosses conneries là-bas. Moi, j'ai déconné sur un truc, je te dirai peut-être après. Mais...
Écoute, ça arrive. Ça arrive. Et c'est vrai que là-dessus, alors suivant les facs, hein, mais les coachs, les règles et les coachs, je dirais que ils hésitent pas quand même à virer. Nous, on en a certains que des fois qui se sont fait virer. C'est pas pour faire peur aux mecs, mais ouais, on en a quelques-uns qui ont fait des grosses conneries, notamment les soirées. Hein, c'est assez classique, mais
se
les
faire
mecs qui se prennent
prendre,
des charges énormes en
et puis
soirée et qui
conduire, état d'ébriété au volant, tout ça, quoi.
Bah ça ouais, bon ça arrive je dirais malheureusement aujourd'hui ça arrive, enfin heureusement ça arrive moins, mais ça arrive, ouais, c'est clair, c'est déjà arrivé.
T'en as combien qui se sont fait virer d'université, tu dirais?
Ouais, pas tant que ça, c'est difficile aujourd'hui de me remémorer, mais soit viré soit ils ont changé de fac, tu vois, parce que les
Ouais.
coachs ne les supportaient plus ou ils pensaient que c'était pas des gars qui étaient assez motivés pour l'équipe. Allez, je dirais peut-être un 5%, un peu moins de 5% de ceux qu'on a envoyés, tu vois, ça peut représenter. Mais allez, chaque année, il y a un ou deux mecs où ça pose problème. Soit parce que, alors ça peut être aussi par le niveau, hein. Des fois, tu évalues un mec par rapport à son niveau, tu penses qu'il va jouer top 6, et finalement, il se trouve qu'il y a de la concurrence, il joue pas, il est sur le banc. Tu vois, et là, ça peut créer aussi des problèmes, pas dû à son attitude, mais dû au fait que s'il joue pas, bon, bah, c'est plus compliqué, la bourse, c'est plus compliqué, etc., etc., quoi.
Yes.
Et
Moi,
toi,
j'ai
alors,
dit.
c'est quoi les conneries, alors?
Ah, moi, j'ai déconné. Je supportais pas le fait de. Ma bourse avait diminué la deuxième année. J'avais vraiment du mal de faire raquer mes parents.
Ouais.
Et j'avais développé avec mon coloc une tactique qui s'est avérée très, très peu payante, qui était de passer tous les légumes et compagnie. On passait le Nutella, le camembert qui coûtait une blinde aux caisses automatiques. Et on payait deux courgettes, tu vois. Et un jour, on allait faire les courses comme des cons le vendredi. Du coup, on s'est dit, bah, on va prendre des DVD pour ce soir. Et on s'est fait gauler en gaulant les
D'accord.
DVD. Et là, à la sortie de Walmart, menottes,
Ah ben là, ils aiment pas, hein.
voiture de police, le proprio de notre maison est venu nous chercher. Il a payé une caution. Il nous a fait sortir de cellule. Magnifique. Très belle démarche. Ron, si tu m'écoutes, je te remercie évidemment. Et convoqué dans le bureau du directeur de l'université qui nous a mis un warning. Et comme avec mon coloc, on était dans queue de peloton, on était plus 7 ou 8 que 5 et 6 de l'équipe. Il nous a gentiment évincés. Et là, on a cherché d'autres universités. Moi, j'ai fini par rentrer en France et faire autre chose et ça m'allait bien. J'avais fait un peu le tour de l'expérience. Puis lui, il est parti à Philadelphie. Il a vraiment kiffé la suite. Mais ouais, faut pas
Bah tu vois,
déconner.
voilà,
Faut pas
tu
déconner.
bon, c'est assez drôle comme anecdote, mais oui, il plaisante pas avec ça, ouais. Ça c'est
Ouais.
clair. Mais en tout cas, ouais, tu représentes les 5%.
Merci. Merci, au revoir. La success story, je repasserai.
Non, mais tu vois, comme tu l'as dit, en même temps, ça a été une expérience. T'as fait quoi, 2 ans?
J'ai fait un an et demi. J'ai pu transférer tous mes crédits. J'étais éligible pour entrer en troisième année. Donc, j'ai pu prendre le train en route en troisième année en France. Tu vois,
D'accord.
licence, master, au final, j'ai pas perdu de temps. L'anglais, nickel. L'émancipation, ça va. Et puis, ouais, expérience où tu es marqué au fer rouge toute ta vie,
Donc
c'est
positif, quand même.
extraordinaire. Les
Ah ouais.
marches, monter les marches des 47 000 places du stade de foot américain à 5 h 20 du mat, ça marque. Ouais.
Ouais. Ah non, mais c'est clair, c'est ça. Donc, alors, que dire de plus? C'est extraordinaire.
Est-ce que justement j'ai oublié une question ou deux sur le. Alors évidemment, on va avoir différents interlocuteurs au micro sur cette série US qui vont pouvoir couvrir d'autres volets. Mais est-ce qu'il y a un ou deux sujets qu'on n'a pas abordés que tu aimerais peut-être préciser?
Écoute, non, je pense qu'on a fait vraiment un bon tour. On a
On a fait un
couvert
bon
pas
tour.
mal
Il
les
y a
sujets.
Les
Moi,
phases de
je.
recrutement où vous faites venir des coachs parfois, non? Où vous faites
Alors, ouais,
des
alors ça,
vidéos, démonstrations?
peut-être que ça sera traité lors d'un prochain épisode, mais bon,
Ouais.
je peux en dire 2 mots. C'est oui, en juin, on va faire en fait une sorte de tryouts qui existe aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on fait rencontrer les coachs et les joueurs ou joueuses qui veulent partir en université américaine. Ça
C'est-à-dire que
n'existe pas.
les coachs font un tour d'Europe ou ils viennent que chez vous?
Voilà.
Ouais, ils font un
Alors,
tour d'Europe, ouais.
Généralement, ils font un tour d'Europe, mais là, le but, c'est qu'on prenne une date, c'est qu'on dise au coach, voilà, du 16 au 18 juin, en gros, je sais plus quelle date c'est exactement, vous venez, vous allez voir une trentaine de jeunes, une quarantaine de jeunes, qui sont tous des prospects pour aller aux États-Unis, et vous allez faire, entre guillemets, votre marché, vous allez pouvoir les voir et faire votre marché. C'est quelque chose qui est assez répandu aux États-Unis, qui se fait de manière assez importante, mais qui existe quasiment pas, ou pas du tout, en tout cas pas du tout en France, peut-être en Espagne, mais quasiment pas en Europe. Donc le but, c'est vraiment d'être les premiers à faire ça. On pense que c'est une bonne démarche, et tous ceux, en gros, qui souhaitent partir aux États-Unis, qui ont envie soit d'acquérir des informations, soit d'être vus par les coachs, soit d'être sensibilisés au truc, en fait, c'est sous forme d'un tournoi. Il y aura un tournoi et peut-être quelques entraînements. Il y aura des présentations sur le système US. Il y aura évidemment des coachs qui viendront interviewer des jeunes et les voir jouer. Donc, je pense que ce sera un peu une fête du recrutement, on peut l'appeler comme ça, et ce sera assez sympa. Première année, cette année, l'objectif, c'est juin 2023.
Ok, magnifique.
Moi, le seul truc que je voudrais dire en deux mots, c'est simplement dire aux jeunes français qui ont un gros niveau en junior de ne pas penser que c'est une voie de garage. Voilà. Aujourd'hui, jusqu'à présent, si tu veux, c'est vrai que les États-Unis souvent apparaissaient comme vraiment le plan B au cas où, etc. Aujourd'hui, être un très bon junior, même au niveau mondial, faut savoir qu'aux États-Unis, il y a des gars qui sont dans les meilleurs juniors mondiaux. Donc c'est pas une voie de garage, c'est une autre voie qui demande, c'est une autre formation, c'est une autre filière. Je dis pas que une est meilleure que l'autre, mais je dis que pour certains profils, en tout cas, ça peut être une voie qui leur permet de prendre de la maturité et d'aller au plus haut niveau mondial, hein, par la suite. Donc voilà, ne le prenez pas pour une voie de garage, ça peut être aussi une voie royale.
Ok, très bien. Dans tous les épisodes, j'ai des questions de fin auxquelles tu ne vas pas déroger, Charles. Si tu avais un livre à recommander aux auditeurs du podcast, est-ce que tu en as un qui t'a marqué particulièrement?
Alors, je dirais, bon, vu qu'on est quand même dans un contexte tennis, je vais pas parler de livre que
tu peux.
Alors, écoute, allez, les frères Karamazov.
C'est de qui?
Dostoevsky. Okay.
Qu'est-ce qui t'a
ça n'a rien à voir.
Qu'est-ce qui t'a marqué en particulier?
Je sais pas, j'aime bien lire ce mec-là. Il est complètement fou, mais je trouve que l'histoire est belle et émouvante. Voilà, tout simplement. En un mot, juste pour dire, simplement pour recommander un livre que je trouve intéressant, voilà, pour les joueurs de tennis sur le plan mental, c'est le livre du coach que j'avais à Pepperdine, qui a écrit un livre sur le mental, que j'ai trouvé génial. Ils sont pas tous géniaux, les livres sur le mental. C'est If I'm the Better Player, Why Can't I Win? Et c'est de Alan Fox, et c'est un truc, ça monte, c'est à travers des histoires, et c'est génial. Ça raconte, si tu veux, l'histoire de la psychologie dans le tennis, mais de manière pas psychologique, si tu veux. Et je trouve que c'est vachement intéressant. Voilà. Je le conseille à tous ceux qui veulent progresser sur la partie mentale, je le conseille.
Je le mets en lien dans les... Dans la description,
super livre.
Dans la description sur YouTube et la description des plateformes d'audio. Donc, si vous voulez le lien, allez checker la description.
Si, je pense qu'il se trouve assez facilement sur Internet. Donc, franchement, c'est un livre qui m'a vachement aidé.
Top. Juste en un mot aussi, avant les deux, trois autres questions de fin, la Rafa Academy au Koweït, qu'est-ce que tu fais particulièrement? C'est quoi ton rôle?
Écoute, il nous avait contacté à l'époque.
Oui.
Bon, je vais pas refaire toute
l'histoire. Allô, c'est Nadal. Charles, tu peux t'occuper du Koweït? Comment ça s'est fait?
Non, c'était les gars de là-bas, qui cherchaient, en fait, des gens qui avaient une expertise dans le milieu des académies, parce qu'ils voulaient monter un truc là-bas. En fait, ils achetaient un terrain à la Fédération Koweïtienne de tennis et ils voulaient en faire, ils font des centres commerciaux, mais ils font pas de site sportif. Donc, ils voulaient construire un site sportif, en faire un club, un beau club. C'est pas une académie, c'est un country club, en fait. Il y a des tennis, intérieur, extérieur, il y a du paddle, il y a une piscine, il y a une énorme fitness, etc. Donc, c'est plus un country club. Et ils voulaient une expertise avec des gens qui soient capables à la fois de construire le site et de les conseiller, de recruter les bonnes personnes, de faire du marketing, etc. Donc nous, on a un savoir-faire là-dessus qu'on a accumulé au fur et à mesure des années. J'ai une équipe autour de moi qui bosse là-dessus spécifiquement. Ils ont fait appel à nous pour qu'on les aide. Au début pour la construction, après pour le recrutement, après pour la gestion, etc. Donc on a monté le truc là-bas avec eux. On a construit l'offre, on a monté l'équipe. Moi, on a une équipe là-bas que eux payent, hein, mais nous, on a construit, on a recruté l'équipe. On a 25 personnes qui travaillent là-bas, entre les coachs tennis, les coachs fitness, etc. Et on les aide. Voilà, ça fait plusieurs années qu'on les aide et ça se passe bien. Et il se trouve qu'en fait, ils voulaient un nom pour leur académie. Ils voulaient un nom connu dans le monde dans le monde du tennis. Donc, ils nous ont demandé d'aller parler à l'agent de Rafa. Parce que c'était le nom qui, pour eux, c'était vraiment le top du top. Donc, on a parlé à l'agent de Rafa et ça, l'histoire s'est faite comme ça. Donc, aujourd'hui, Rafa donne
Prête
son
son
nom
nom.
à l'académie, vient une fois par an faire une animation ou une exhibition. Il est venu à l'ouverture. Et voilà comment s'est faite l'histoire de manière naturelle. Et on continue de travailler avec eux. Moi, j'y vais une fois tous les. Là, je pars samedi là-bas. Tu vois, j'y vais 3, 4 jours tous les mois ou tous les 2 mois pour voilà pour gérer le truc avec eux, faire des réunions, recruter s'il y a besoin de recruter, bref, répondre à toutes les problématiques qu'il peut y avoir au quotidien là-bas. C'est
Incroyable.
assez exotique et un peu atypique, mais en même temps c'est des gens extraordinaires, voilà, qui font des gros trucs là-bas, des gros trucs. Ils ont 5 ou 6 centres commerciaux énormes, on s'entend très bien. Donc c'est une aventure qui roule et qui continue, quoi.
Avec qui a fait l'exhib, Rafa? Avec qui il a joué?
Avec David Ferrer, il l'avait fait
Ok,
en
c'était.
2020. En 2020, ils avaient fait l'exhibition. Parce qu'ils ont un terrain, si tu veux, central, indoor. Ils ont un truc énorme avec 5 000 places, multifonction. Et ils ont un terrain extérieur de 2 000 places. On avait fait l'exhibition sur le terrain extérieur. Et c'est comme ça que ça avait lancé, si tu veux, le club. Aujourd'hui, au club, il y a 1 000 membres. Il y a une école de tennis avec 400 gamins. Il y a une école de paddle. C'est full, tu vois, ce qui est hallucinant. C'est-à-dire que des fois, tu vas dans des clubs en France, c'est un peu vide, en tout cas sur la partie tennis. Là-bas, tu y vas, tous les terrains sont pleins, tennis, paddle, c'est assez impressionnant. C'est vrai qu'au départ, c'était pas gagné. Tu te disais pas que à Koweït City, t'allais faire un gros club de tennis et de paddle qui allait vraiment fonctionner. Aujourd'hui, c'est devenu la référence vraiment dans les country clubs du Moyen-Orient, quoi. Donc,
Solide.
c'est assez sympa comme aventure.
Beau boulot, bien joué. Le concert le plus ouf auquel tu as assisté dans ta vie?
Ben Harper.
C'était où?
À Bercy, où
Ok.
il a fini avec sa guitare. Bon, il était complètement défoncé, mais c'est un artiste, un grand artiste.
C'est bon ça. Et toi
Ouais.
aussi, tu t'es tiré sur un ou deux spliffs au passage ou pas?
Non, moi non, j'étais raisonnable. La bière, oui.
Ouais, tu.
La bière, ouais. Plus
Ok.
bière.
Le film que tu recommandes et que tu recommanderas toujours.
Film que je recommande, One Million Dollar Baby,
Ok.
avec
Ouais,
de Clint Eastwood.
sur
Ouais,
la
j'ai
boxe.
adoré. Ah
Ok.
ouais, j'ai adoré.
L'expérience la plus folle de ta vie. Tennis, en dehors tennis. Si tu me dis la naissance de tes enfants, je t'en colle une parce que c'est trop classique, on peut pas se projeter.
Plus folle, c'est une bonne question. Ouais, je dirais, allez, un petit saut en chute libre, saut élastique. Ça, c'est peut-être pas la plus folle, mais en termes de sensation, moi, j'aime bien les trucs à sensation, quand même.
C'était
Et
où?
saut élastique, viaduc de la Souleuvre en Normandie, où tu sautes dans une rivière, et ils te disent, alors, t'es à 70 mètres de haut, ils te disent, vous voulez rentrer dans la rivière, parce qu'on règle l'élastique en fonction. Bon, je leur dis, bah, ouais, pourquoi pas, tant qu'à faire, je vais rentrer dans la rivière. Et donc tu sautes et là tu descends à bloc, tu comprends pas ce qui se passe parce que tu sautes quand même à 70 mètres de haut, c'est quand même pas naturel. Tu rentres dans la rivière, tu t'arrêtes et là d'un coup tu repars comme une balle comme un élastique. Je sais pas si tu l'as déjà fait. Ouais,
Non.
c'est un truc fou.
Mais tu percutes l'eau, non, t'es freiné avant de rentrer dans l'eau quand même.
Ah, t'arrives en bout d'élastique si tu veux. Donc tu arrives doucement, t'arrives à la fin de quand l'élastique
Ouais.
est au bout, tu rentres dans l'eau. Il le règle, tu rentres entièrement dans l'eau et hop, tu repars à 70 mètres de haut, quoi.
Et tu
Donc
dois avoir de l'eau dans le nez comme jamais quand tu remontes.
ah ouais, non, mais c'est assez intense
Et
comme expérience.
toi qui es un mec pressé, t'étais pressé de sauter ou tu faisais pas le mariole quand même sur la rambarde là?
Non, tu fais pas le mariole, ça, faut pas, faut, on va pas, peut-être pas exagérer. C'est vraiment pas quelque chose de naturel. Quand tu arrives au bord et que le mec il te dit vas-y, saute. Là, tu te dis, mais attends, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça déconne complètement. C'est-à-dire que tu sautes dans le vide, sauf que tu es attaché au pied par un élastique, quoi. C'est assez drôle. Après coup, c'est assez drôle et bon, faut aimer ce genre de sensation. Moi, j'aime beaucoup ce genre de sensation.
J'ai une question à la fin du podcast aussi, normalement, avec les joueurs, les joueuses, parce qu'on a accès à leur prize money sur l'ATP ou la WTA. Et toi, je vois que tu as une page Wikipédia, dis donc, à ton nom. Grand luxe, grande classe.
Ah ouais, je savais même pas.
Il est indiqué que tu as gagné 74 867 dollars, Charles. Et généralement, je dis, qu'est-ce que ça t'évoque, ce montant?
Ça m'évoque que j'étais un bon ouvrier du tennis, ouais. Un bon smicard du tennis, ouais.
Ouais.
À cette époque, quand tu étais 200e mondial, c'était ouais, tu gagnais. Allez, si tu jouais pas des matchs par équipe, des choses comme ça, tu gagnais pas ta vie parce que tu avais plus de dépenses que de revenus. Ça a évolué d'ailleurs. Pour le coup, là, je vois les jeunes de l'académie, certains qui jouent en futur ou en challenger, les prize money ont augmenté quand même. Donc ça, c'est une bonne chose. Je pense aujourd'hui, tu peux en vivre. Je pense t'es 200e mondial, tu joues que à l'ATP, tu peux vraiment en vivre. À l'époque, c'était pas encore le cas, quoi. À mon
Ouais.
époque, il y a 25, 30 ans, 25 ans, quoi.
Et en 98, là, quand tu places ces deux athlètes d'athlétisme, du coup, Perchis, je crois que tu nous as dit saut en quelque chose.
Triple saut et saut en longueur. Hein.
Ouais, magnifique. Et que t'encaisses tes premiers cachets là-dessus. Comment tu t'es professionnalisé sur tes prix? Est-ce que tu avais des concurrents ou tu as calqué les services et les prix? Comment tu as fonctionné?
Alors franchement, j'avais aucun repère parce que ça n'existait pas. Si, il y avait un mec qui le faisait un peu en tennis.
T'es vraiment le pionnier en France là-dessus?
Je pense, non, il y avait un mec à l'époque qui le faisait. Alors moi, j'étais le premier à le faire multisport, vraiment, enfin, industrialisé, à le faire vraiment en grosse quantité. Il y avait un mec qui le faisait un peu en tennis, un Américain, qui venait en France, je me rappelle, et qui proposait des services là-dessus. Mais ouais, multisport, moi j'étais le premier et j'avais pas de point de repère donc au niveau du tarif, donc je l'ai fait un peu au feeling par rapport à ce que je pensais qu'un étudiant ou un élève pouvait payer pour partir, hein, que ce soit pas non plus déconnant. Et en même temps, je me disais combien, tu vois, je m'étais dit combien tu peux en faire dans l'année seul au départ, et comment tu peux traduire ça par quelque chose de professionnel pour toi, tu vois. Il fallait que je puisse en vivre quand même. Donc je suis parti de là, et je te dis, je crois qu'on est arrivé assez vite à un truc comme 10 000 francs. À l'époque, ça devait faire 1 500 euros. Bon, c'était du boulot, hein. C'est du boulot. De toute façon, si tu veux bien faire les choses, t'as un an de procédure. Bon, je sais pas comment toi tu l'as fait, mais c'est du voilà, t'as de l'administratif, t'as des examens, t'as des contacts, tu dois contacter quand même pas mal de coachs, etc. Si tu le fais bien, c'est vraiment du boulot. Donc voilà, je me suis positionné comme ça. Puis après, c'est vrai qu'il y en a d'autres qui sont arrivés au fur et à mesure. Et puis, écoute, aujourd'hui, je crois que c'est quelque chose qui coûte de l'ordre de 2 500 euros, je crois, pour partir. Donc ça. Voilà, c'est en même temps un peu un investissement, mais ça me paraît raisonnable. Si les gens bossent sérieusement, ça me paraît raisonnable, quoi.
Ouais, c'est à peu près ce que j'ai payé 2000 euros. Bon, avec un concurrent, je vais évidemment pas citer maintenant. Et oui, je confirme que c'est pas mal de boulot, tant sur la partie administrative que la négo de la bourse, que voilà, tout ça, ça s'invente pas forcément. Donc, évidemment, ça vaut le coup. Est-ce qu'il y avait une autre question que je posais habituellement? Voyons voir. D'habitude, je dis, est-ce que tu as envie de... Ouais, si, quand même. Est-ce qu'il y aurait une personne que tu aimerais écouter sur ce podcast en marge de ce format sur les US? Une personne que tu trouves méga intéressante dans le monde du tennis?
Ah, t'en as des questions, des pièges, toi.
Pierre Barthès?
Pierre
T'es en contact avec lui ou
Barthès.
pas?
Ah ouais, on a été en contact l'année dernière. Il est venu d'ailleurs parce qu'il y avait son petit-fils qui est venu faire un stage. Super sympa, enthousiaste. Il était content, je pense, de revoir le site Vive parce que lui, il l'a connu la grande époque. Et c'est une bible du tennis. C'est un mec qui aime bien, en plus, raconter des anecdotes. Donc ouais, pourquoi pas? Ce serait un bon mec à inviter pour discuter tennis. Il en connaît quand même un bout sur le sujet et ça peut être intéressant. Ouais.
Génial. Toute dernière question. Un conseil que tu donnerais aux joueurs, aux joueuses passionnées, tu vois, un truc sur le terrain à grappiller, à gratter pour s'améliorer dans son jeu, un petit truc à manger comme ça, tu vois, qui fait du bien.
Écoute,
À mettre en application sur le court, tu vois, éventuellement, hein.
ouais, il y en a tellement de choses.
Une petite pause, on a mis en place un abonnement hebdomadaire dans lequel on vous envoie un conseil coaching par semaine d'un joueur du circuit ou un coach pour vous permettre de progresser continuellement aux côtés de ces personnes quasi intouchables. tout en soutenant le développement du podcast pour nous permettre de toujours produire du meilleur contenu. Donc le fameux conseil coaching de Charles est accessible en lien dans la description. Et en y accédant aujourd'hui, vous bénéficiez de tous les précédents conseils de nos invités. Alors merci pour votre motivation sur le cours ainsi que votre soutien et on y retourne. Tu regardes encore le tennis professionnel ou t'as lâché ?
Ouais, non, beaucoup parce que déjà j'adore ça, puis je vois l'évolution, ça m'intéresse et puis on a quand même pas mal de jeunes qui sont bons ici, il y en a des gars qui sont sur le circuit. Constant, Tito Androgué là que je suivais à Cherbourg il y a 10 jours, je suis allé avec lui qui a fait qualifier finale pour le coup, tu vois, dans un gros tournoi challenger. Donc des mecs qui ont du potentiel, donc c'est important de se tenir au courant des évolutions, de voir et puis c'est intéressant pour coacher, c'est obligé, sinon tu restes 20 ans en arrière quoi.
Et le paddle, comment de quel œil tu le vois ?
Paddle, ouais, c'est un boom incroyable. C'est vraiment le tennis des années 80 en termes d'intérêt. Il y a un intérêt pour le paddle, ça se voit dans tous les clubs du monde, quel que soit l'endroit où tu te trouves dans le monde. Dès que tu ouvres un club de paddle, il y a du monde. C'est facile, c'est convivial, ça a plein d'atouts, donc c'est génial. Moi, je trouve ça très amusant. Après, en modèle économique, c'est pas évident. Faut pas non plus penser que parce que tu ouvres un club, ça va marcher et que c'est un modèle économique viable. Ça, c'est une autre histoire. C'est un peu plus compliqué et puis ça sera difficile d'atteindre le niveau du tennis parce qu'il n'y a pas de grand chelem. Il n'y a pas d'événement comme mythique comme il y a dans le tennis. Mais par contre, c'est plus qu'une mode. Je pense que ça va bien au-delà de la mode aujourd'hui. C'est vraiment, il y a un engouement pour ce sport pour plein de raisons qui fait que ça va durer dans le temps.
Top, merci Charles. Merci pour ce premier épisode de cette série. J'ai commencé un intro en disant que ça allait être plus court que les formats classiques. Je n'ai pas réussi, très clairement. Mais j'ai passé un super moment. J'espère que les auditeurs aussi. La force de l'audio, c'est qu'on arrive à garder les gens au moins pendant 80% du contenu. Donc, YouTube, cool. C'est une autre paire de manches. Les plateformes audio de podcast, ça, c'est un vrai avantage. Donc voilà, mettez-nous un petit Merci. Commentaire, j'espère que ça aura plu. Partagez à des jeunes qui ont potentiellement envie de partir aux US ou qui n'ont pas forcément pensé à cette éventualité-là. Moi, c'est mon meilleur pote à l'idée qui m'a donné l'idée. Donc voilà, partagez l'épisode à des jeunes que ça peut inspirer, à leurs parents aussi. Et puis à très vite, Charles, pour de nouveaux contenus. Hein.
Merci Max et merci et bravo pour ce que tu fais au passage. Moi, je suis maintenant assez régulièrement tes podcasts et c'est vraiment super. Voilà, bravo. Top.
Merci beaucoup. Allez,
à bientôt.
À très vite. Ciao, ciao.
Ciao.
Merci d'avoir écouté ce premier volet avec Charles Auffray d'une série de 7 épisodes dédiés aux universités américaines. Pour rappel, notre invité du jour est directeur de la French Touch Academy au Cap d'Agde et met en place tous les services nécessaires pour partir étudier aux États-Unis avec une bourse à la clé. Si besoin, je mets tous les liens en description de l'épisode pour vous documenter et aller vivre une expérience qui changera votre vie ou celle de vos enfants éventuellement. Dites-nous en commentaire et avec un like ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify si le format vous plaît. Ça aidera l'épisode à bien marcher. Et si vous avez des questions en lien au parcours universitaire américain, posez-les ici ou envoyez-les-moi par mail à max@tennislegende.fr. Je ferai le nécessaire pour y répondre dans les prochains épisodes. Allez suivre le compte Insta de la French Touch Academy et pour récupérer le conseil coaching de Charles, le lien est dans la description de l'épisode. En y accédant aujourd'hui, tu bénéficies par ailleurs de tous les précédents conseils de nos invités et ça permet au passage de soutenir le podcast de manière active, d'accéder à des bonus exclusifs et nous encourager à produire du meilleur contenu. Par avance, un grand merci. Voilà, prenez soin de vous les légendes et à très vite. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.